Become a member of CIUT 89.5 FM before April 8th, and you will be entered into two special early bird draws for a VIP package for two people to the Fashion Arts Toronto Festival, or a $300 Steve's Music gift certificate. To donate, visit www.ciut.fm.
CIUT 89.5,
the new sound of your city.
The CIUT 89.5 FM Spring Membership Drive is happening April the 8th to April the 14th. Become a member before April the 8th, and you will be entered into two special early bird draws for a VIP package for two people to the Fashion Arts Toronto Festival or a $300 Steve's Music gift certificate. To donate, go to www.ciut.fm.
Right here, right now, every day. CIUT 89.5, the sound of your city.
En Amérique, on peut entendre les langues autochtones.
L'anglais, l'espagnol, le portugais,
le créole
et évidemment le français. Tout comme son continent, la francophonie des Amériques est belle, vaste et diversifiée.
Saviez-vous que partout au Canada, on peut étudier en français de la garderie à l'université?
On retrouve d'ailleurs plus de 20 universités francophones d'un océan à l'autre.
La culture francophone y est aussi célébrée dans de nombreuses fêtes et festivals,
même jusqu'à Saint-Pierre et Miquelon.
Au 19e siècle, les Canadiens français ont traversé la frontière du Sud en si grand nombre qu'on y retrouve aujourd'hui des millions de leurs descendants.
Il y a plusieurs villes majoritairement francophones en Nouvelle-Angleterre.
On redécouvre la valeur économique du français en Louisiane et on retrouve de nombreuses populations francophones à New York, en Floride et jusqu'en Californie.
D'est en ouest, le français résonne.
Dans les Caraïbes, c'est plus de 9 millions de personnes qui s'expriment en français. Les festivités culturelles sont nombreuses, soulignant à la fois leur héritage français et créole.
Plus d'asile.
Salut à tous, c'est Bob Sinclair, bienvenue dans le Bob Sinclair Show. Un tout nouveau show rien que pour vous. J'espère que tout le monde est prêt, c'est parti.
I love.
Émission spéciale dans le cadre du mois de la francophonie. Émission de clôture, ensemble l'Amérique francophone. Tout au long de l'émission, répondez à la question du dimanche et courez la chance de gagner un t-shirt de CIUTFM ou un laissez-passer pour le 18e festival de Ciné Franco. La francophonie, qu'est-ce que c'est? Tout au long de l'émission, Mathilde attend votre appel, votre réponse à 416-946-7000. Émission spéciale de clôture du mois de la francophonie, édition 2015, ensemble, l'Amérique francophone.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Pokori Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Les 24 heures du roman. Une aventure littéraire et ferroviaire présentée par Écriture en Mouvement dans le cadre des célébrations du 400e anniversaire de la présence francophone en Ontario. Écriture en aventure avec 24 écrivains dans un train de vie à rail. Ensemble, ils écriront, certains diront que c'est en lisant qu'on devient liseur. De Halifax, Montréal et Toronto, le 400e en Ontario, un parcours de mots. Les 24 heures du roman, un voyage hors du temps. Le 23 octobre 2015, 24 écrivains, incluant des franco-ontariens, acadiens, québécois et amérindiens, ensemble, ils vont explorer l'histoire tout en découvrant une histoire à plusieurs voix. Tout au long de 2015, sur les traces de Samuel de Champlain en Ontario. Les 24 heures du roman, une expérience à la croisée de plusieurs cultures. L'écriture en mouvement, un concept inédit. Les 24 heures du roman, en partenariat avec l'Association des auteurs de l'Ontario français, VRI, le Consulat général de France à Toronto, Popovichaud CIP 89,5 FM. Les voyages en train chez VRI offrent une occasion unique de découvrir l'histoire, la nature et la culture et de se reconnaître mutuellement. N'attendez plus, inscrivez-vous, participez à nos jeux concours et qui sait, vous courez la chance d'être à la fête. Pour tout savoir, pot.pourri@sympatico.ca. Bonne chance et bon voyage.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voile.
Adra ben la cosa, ding-e-dong.
La la la,
ding-e-dong.
Écoutez la planète chanter.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale. Émission spéciale de clôture du mois de la francophonie, édition 2015, Ensemble, l'Amérique francophone. Émission spéciale en ce dimanche 29 mars 2015. Pour nous joindre tout au long de l'émission, 86 946 7000 ou encore pot.pourri@sympatico.ca. De 11h à 13h sur www.cut.fm. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à votre magazine de la francophonie. Aujourd'hui c'est une édition spéciale. En effet, nous clôturons à notre façon, à la torontoise bien sûr, la programmation de la francophonie, le mois de la francophonie, le mois le plus intéressant, le plus
francophone
de l'année. Alors aujourd'hui à l'émission débat table ronde autour de l'interculturel en français comme langue étrangère, la mondialisation des marchés économiques et le flux croissant de population qu'elle engendre font de l'interculturel un sujet à la mode. Plongé dans la 18e édition de la programmation de Ciné Franco de Marcel Lynn, sa fondatrice, et gagner une paire de billets en nous téléphonant immédiatement à 86 946 7000, tirage au sort à la fin de l'émission. Et je vous rappelle que Ciné Franco est à l'affiche du 10 au 19 avril au Hot Docs, une première, 18 ans selon Marcel Lynn, 18 ans encore précoce mais beaucoup courtisé. Notre ami et fidèle collaborateur et fondateur du magazine qui ne s'achète pas longueur d'onde en France vous invite au printemps de Bourges. À nos amis auditeurs internautes longueur d'onde, vous fait gagner 2 places pour le concert de votre choix. Notre invité qui nous attend en direct à Paris, Serge Beyer. L'écriture en mouvement, plongez-vous dans un voyage de rêve et riche en histoire lors des festivités du 400e anniversaire de la présence francophone en Ontario. Notre invité de marque, ici même avec nous en studio en chair et en os, Anne Forrest Wilson, directrice générale, l'écriture en mouvement. Bonjour et merci d'être là. Réaction de nos auditeurs, auditrices, internautes, tout au long de l'émission, professeur Issa Sayeg. Tenez-vous bien, les gens ont joué, jonglé avec nous les mots de la francophonie et nous allons vous faire découvrir
les mots, M-O-T-S,
bien sûr. Alors, merci à Gilles qui nous dit, qui nous envoyait un petit texto la semaine dernière et je vous dirai tout ça, c'est quoi son mot préféré. À ne pas rater. Et bien sûr, vos chansons préférées, les chansons francophones, chansons des îles, parce que nous sommes dans les Amériques, nous irons en Martinique et ensemble avec mes invités, nous allons voir, nous allons tester leurs connaissances au nom de la chanson francophone ou française et l'interprète. Nous allons voir ça et il y aura un prix, bien sûr. Prix citron aussi, bien sûr, pour les perdants. Mes remerciements à notre co-animatrice et collaboratrice Danielle Issa Sayeg, professeure associée chargée de cours et directrice adjointe, département d'études françaises, Université de Toronto. Merci beaucoup d'être là. Collaborateur en ligne, professeur Pascal Michelucci, qui sera des nôtres dans la première heure. Il est directeur du département d'études françaises. Merci aussi d'être là. C'est notre commanditaire principal pour ce mois, mais aussi tout au long de l'année. Merci. Un grand merci à nos bénévoles, Morgane, qui n'est pas là avec nous, mais qui est de retour de l'Inde, à qui nous disons le bonjour et bienvenue au Canada. Notre stagiaire du mois ou de l'année, je ne sais pas, c'est Mathilde, que vous voyez de l'autre côté de la vitre. Et bien sûr, notre ingénieur du son, DJ Devera. Merci d'être là. À la commande, Eric Cadet, votre serviteur, en votre compagnie de 11h à 13h sur www.cut.fm ou encore sur facebook.com/popourichaud. Notre numéro en studio, c'est le 86 946 7000. 26e édition de Popourichaud, le mois de la francophonie, ensemble, l'Amérique francophone.
Y a du monde ou quoi ? Il paraît que c'est chaud, mon pelier, il paraît. Et là, le type là, oui, oui, petit plein de Paris, à Yaoundé, connexion, les bénés. Allons-nous ambiancer, ambiance soukousse, ambiance macrosa, ambiance kikouti, ambiance assico, mouvement et partout, et mouvement à gauche, mouvement à droite, mouvement de pécose, direction à l'hôpital, docteur, mais c'est mauvais, attention à jeu, ça vient à ambiance de la bouche, ça vient à attention les secousses, ça vient ambiance de la boue, saga Africa. Attention les secousses, saga Africa. Chante en bas, saga Africa. Attention les secousses, saga Africa. Ambiance de la boue, saga Africa. Attention les secousses, saga Africa. Woo-hoo!
Et oui, madame, monsieur, bienvenue à votre émission préférée. Je ne sais pas où vous êtes en ce moment, ceux et celles qui nous écoutent un peu dans l'ouest du pays. Je sais que la neige est toujours au rendez-vous. Je ne sais pas chez vous, chez nos invités qui sont ici ou même en France, à Paris, s'il neige encore. Mais je sais, tout ce que je sais, la grève à l'Université de Toronto et ainsi qu'à York, je pense, ont pris fin, n'est-ce pas, professeur Daniel Sassayek, bonjour.
Bonjour Eric, à UFT oui, mais à York ils sont toujours en grève.
Donc il y a des barricades, on a enlevé les barricades à l'Université de Toronto, oui.
Il n'y en a jamais vraiment eu parce que...
Mais ça jouait dur quand
oui,
même.
Oui, ça jouait très dur et bon maintenant c'était dans une impasse et le président a demandé... Est-ce qu'il y a un arbitrage exécutoire?
Oui.
Et bon, voilà, on reprend la fin des cours pour 4 jours. Et ensuite, on entame la session des examens. Mais c'est une bonne chose que les étudiants puissent rentrer dans cette session des examens en toute sérénité et être rassurés que leur année ne sera pas perdue parce que il y a quand même les 3/4 de l'année qui vont être sauvés. Ce qui est pas mal et on a pris un engagement, nous en fait en tant que département de français, de s'assurer que lorsqu'ils passeront dans le niveau suivant et toute la matière qui n'aura pas été faite ou couverte pendant la période de la grève soit de suite faite dans ce niveau-là.
Merci donc, beaucoup. On pourra peut-être parler encore avec notre ami Pascal, qui
sûr,
nous écoute en ce moment, qui nous disons bien le bonjour. Peut-être il est déjà en pyjama avec son petit espresso. Je le vois déjà là. Vous savez, nous avons des antennes qui survolent partout.
Oula.
Ah oui, qui baladent sur la ville de Toronto. Alors, il faut faire très attention.
Oula. Alors, vous avez des drones?
Oui, des drones, des drones. Alors, Ciné Franco a 18 ans. Il est né sous la bonne étoile et nous avons sa fondatrice que nous connaissons depuis très longtemps, depuis Belle Lurette.
Hein oui,
nous avons joué avec les mots aujourd'hui.
Vrai.
Alors, vous dites que c'est un enfant précoce.
Non, il n'est pas précoce vraiment, mais il est en crise d'adolescence,
hein, ah oui
18 ans quand
ah oui,
même.
Ouais,
c'est à la fois très exaltant, mais en même temps, il y a une incertitude dans l'avenir qui se profile.
Alors, voilà. Je profite avant que j'oublie, parce que vous savez, la mémoire est une faculté qui oublie, n'est-ce pas?
Oui.
Alors, pour vous remercier au nom de la communauté en général et aussi des institutions qui nous écoutent en ce moment, pour votre courage, il faut bien le dire, parce que mettre sur pied un festival international en français dans une zone, oui, dans un océan anglophone, il faut bien admettre, et tenir le coup et le bout du bâton pendant 18 ans, il faut le faire.
Mais merci, c'est plus que 18 ans d'opération, mais bien sûr, ça a mijoté dans ma tête depuis au moins 20 ans ou 25 ans, mais merci, je suis vraiment très très touchée.
Marcel, restez des nôtres tout au long de l'émission. Nous allons décortiquer votre programmation édition spéciale à Hot Dogs, il faut bien le dire.
Oui.
J'aime beaucoup votre affiche.
Ah, merci.
Qui en a eu l'idée?
On le dit pas à l'antenne.
On le dit pas.
On le dit pas à l'antenne.
Mais le créateur co-effect
est
merveilleux.
Ouais. Mais c'est très Frenchy, je trouve.
Oui.
Alors, merci beaucoup d'être là et je vous souhaite un très bon mois de la francophonie. Et nous allons accueillir aussi tout au long de cette émission notre amie Anne Forrest Wilson, fondatrice de l'écriture en mouvement. Vous avez entendu un peu notre publicité, notre pub. Est-ce que vous l'aimez, Anne?
Formidable.
Oui. Alors, grâce à vous aussi, c'était un concours de jeux de mots et de coïncidences et ensemble nous avons trouvé une musique de train comme background. Ah oui, formidable. On veut faire rêver justement voyager à travers les ondes, à travers la radio, parce que c'est ça la radio aussi, c'est de faire rêver les gens un peu, passer dans ce grand pays qu'est le Canada. Les gens qui nous écoutent actuellement en France se posent toujours la question, mais c'est un vaste territoire et par le train on peut justement découvrir les richesses, voilà justement. Et comment va le projet?
Le projet va très très bien, ça avance tous les jours, c'est beaucoup 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 de travail et beaucoup 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 de plaisir.
Alors ça s'inscrit dans le cadre du 400e, des célébrations du 400e anniversaire.
Absolument, ça va clôturer le 400e anniversaire, oui. Puisqu'on va arriver le 24 octobre qui est la fin des célébrations.
Oui, est-ce que Champlain, ça c'est la grande question que je reçois souvent à l'antenne, est-ce que Champlain sera des nôtres?
Absolument.
Oui.
Samuel va être là.
Et on oublie souvent, professeur Issa-Sayeg, qu'il y avait aussi Da Costa.
Oui.
Qui était avec Champlain.
Bien sûr.
Eh ben, pourquoi on ne parle pas de ce monsieur?
Ben, c'est toujours pareil. Il y en a un qui fait de l'ombre à l'autre et c'est la vedette dont on parle. Et
les
sous-lieutenants, on n'en parle pas trop.
D'abord, qui est Da Costa?
Alors, je vais laisser peut-être...
Personnellement, je ne sais pas qui est Da Costa.
Ah.
Non, vraiment.
Ah, non.
Oui. Non.
Ah, ça c'est un personnage qu'il ne faut pas rater dans l'histoire du Canada.
D'accord.
Il était le traducteur de Champlain, né en Madagascar.
Oh là. Il y avait Étienne Brûlé aussi.
Oui, Étienne Brûlé aussi.
Surtout, moi, je pensais à Étienne Brûlé. Il l'interprétait.
Oui, oui. Voilà. Et puis, il comprenait aussi la civilisation ojibwé. Et...
Oui.
Oui, oui, oui.
Alors, quand on parle de la petite histoire du Canada, nous sommes quand même un jeune pays, hein, comparable à l'Europe.
Petit.
Alors, non, mais c'est très important d'être aussi inclusif, je pense. Il faut célébrer tous ces personnages, y compris Étienne Brûlé, bien sûr, il y en avait tant d'autres, mais c'est très difficile d'aller fouiller dans l'histoire pour savoir qui étaient les autres personnages autour de Champlain.
Oui, c'est vrai, parce que Champlain, comme a dit Daniel, c'est vraiment la grosse vedette. Et donc, c'est déjà difficile de connaître un petit peu tous les recoins de son exploration. Et donc, ça rend beaucoup plus difficile de voir quels sont les accompagnateurs de Champlain. Oui.
Champlain était la figure emblématique.
Exactement.
C'est sûr que c'était lui qui avait la vision.
Voilà.
Et il était soutenu par Henri IV.
Oui. Oui. Alors, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas chez Champlain, je pense, parce que j'ai des antennes un peu à Québec, en France. Il y a même une Française qui nous écoute en ce moment qui a fait toute une étude, une recherche sur Champlain, sur les traces de Champlain. Alors, oui, il y a des trucs même un peu choc. Ah ouais, oui. Mais on ne le dira pas aujourd'hui. Il faut continuer à écouter l'émission.
Garder un peu de mystère.
Parce que d'ici le 23 octobre.
On a plusieurs mois à tenir.
Après le Lipo, qui a été un succès d'ailleurs à l'Université de Toronto. Très belle soirée.
Ouais.
Et d'ailleurs, si vous allez sur le site, donnez-nous l'adresse de Écriture en Mouvement.
Alors c'est écriture-en-mouvement.com.
Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons célébrer la francophonie des Amériques, chose qu'on n'entend pas souvent. On dit la francophonie ontarienne, la francophonie québécoise, la francophonie, je sais pas, du Nouveau-Brunswick ou encore de la Colombie-Britannique ou de l'Alberta. Mais c'est très rare qu'on entend parler ou qu'on utilise cette expression, la francophonie d'Amérique. Or, il y a des centaines de milliers, d'ailleurs la semaine dernière nous sommes allés en Louisiane, vous vous souvenez ?
Exactement.
Et de voir comment il y a un intérêt, un regain
pour la langue française, effectivement.
Et même à Costa Rica, on me dit qu'il y a des gens qui s'adonnent à des cours de français. Comment expliquer cet intérêt ?
Je ne sais pas, je crois qu'il y a quand même un grand mouvement de préservation, de conservation et de fierté de la part des francophones qui essayent de ne pas perdre pied par rapport à l'anglais qui a quand même envahi tous les domaines et qui est la langue internationale de choix.
Justement, Marcel, je pense que les New-Yorkais, les gens qui sont à Los Angeles, par exemple, parce que je les connais, à Miami aussi, ont ce goût de fréquenter, se frotter à la culture française. Je dis bien la culture française. Et souvent, il y a des petits mini-festivals de films, des concerts avec des artistes français ou d'autres pays qui passent et qui ont un succès incroyable.
Oui. Mais ne pas oublier quand même la migration des Français ou des Québécois, d'ailleurs. Oui. Quand on parle de la Floride, on sait qu'il y a, des régions entières où il y a beaucoup de Québécois, où il y a beaucoup de Français... pareil pour New York, même les plus célèbres comme Charlotte Gainsbourg ou autres émigrent comme ça. Los Angeles, Johnny Hallyday par exemple.
Passez Johnny. Alors, nous allons vous poser la question piège. Mes chers amis, je vous aime beaucoup et merci d'être là. Écoutez bien cette chanson et vous allez me donner le nom de l'interprète. Allons-y. Non, vous avez retrouvé.
C'est pas Paul Persson.
Non. Une autre chanson. Nous allons continuer. On va essayer de passer à une autre chanson. Voilà.
J'aimerais
Gilles Montagnier.
Et alors
Gilles Montagnier.
Oui, bien sûr, bien sûr. Bravo, professeur Zaza Yagmi. Elle est forte,
oui,
hein, elle est
alors
bonne.
Là, bravo. Hein.
On continue notre voyage. Et alors Daniel est forte, hein. Et alors, qu'est-ce que c'est? Qui est cette personne?
Je connais la chanson, mais je ne me souviens plus du titre.
Connaissez-vous la chanson en nom de madame? Et alors, celle-là?
Ah, ça, c'est pas les, la compagnie créole.
Compagnie créole, voilà, bravo Anne. Merci beaucoup. Alors, eux, ils sont bien des Amériques, hein?
Ben oui,
absolument. La compagnie créole. Et ici?
Ça, c'est Vanessa Paradis, oui.
Bien sûr, Vanessa Paradis, vous avez gagné.
C'est Joe le taxi, c'est sa première fois.
Exactement,
oui,
exactement.
Avec 14 ans.
Peut-être on dira Joe Viaray.
Peut-être qu'ils choisiront un autre prénom.
Prochaine chanson, madame, monsieur. Et alors?
Ben non, moi
le nom de cette interprète?
Je connais les chansons, oui, mais les interprètes, zéro. Hein.
La prochaine chanson, madame, monsieur, voici. Appelez-nous si vous voulez jouer avec nous. Eh oui!
Claude François,
Clo-Clo, bien sûr, le regretté Clo-Clo. Vous savez qu'il était de l'Égypte, hein?
Oui,
un Égyptien,
oui. Alexandrie.
Hein,
oui,
Alexandrie.
Oui.
Alexandrie.
Alexandrie.
On a beaucoup de plaisir ici.
Si j'avais un marteau.
Prochaine chanson. Et alors?
Non, si, je connais ça. C'est Mylène Farmer.
Non.
Elle est Mathilde, dites-nous.
Promets-moi si tu me survis d'être plus fort.
Un Canadien cette fois-ci.
Ah, je connais pas.
Je serai toujours dans ta vie.
Daniel Lavoie. Rendez-vous, je sais pas.
Je te promets. Et si la mort me programme sur son
grand ordinateur. Il est canadien, hein?
Non,
Rock voisine, n'est-ce pas?
Je l'ai dit, Rock voisine, elle a dit.
Je l'ai dit, merci.
Très belle chanson. Des souvenirs, hein? Eh oui, c'est Jean-François Goldman, hein?
Jean-François Goldman.
Oui, voilà. Eh oui, voilà, madame, messieurs. Alors, merci beaucoup d'avoir participé, prêté votre voix à ce petit jeu concours. Et si vous êtes à la maison, vous avez des expressions ou des mots de la francophonie, vous êtes passionné à jongler avec des mots, des expressions, vous nous appelez. Nous avons Mathilde qui attend votre appel et qui sait, vous courez la chance d'aller voir des bons films de ciné franco tout au long, ben, c'est du 9.
Du 10 avril.
Du 10 avril
au 19.
Au 19, oui, voilà. Oui. Alors, brossez-nous un peu le décor de cette 18e édition, Marcel.
Comme d'habitude, c'est un feu d'artifice de films éclectiques qui parlent beaucoup de femmes, qui parlent de sujets assez chauds sur la condition féminine, par exemple, dans la société orientale, comme avec le Chalat de Tunis. On a des thèmes qui reviennent, comme justement vous parliez de l'interculturalisme dans Les Héritiers, qui est un film sur l'étude de l'Holocauste par des adolescents en voie de garage dans un collège de Créteil, Léon Blum. Nous avons également des comédies, bien sûr, des comédies totalement inédites, comme Jacques a vu, comme encore Les Maîtres du Suspense, qui se passe en partie en Louisiane, justement. Nous avons également des films qui sont vraiment tirés d'histoires réelles et d'affaires criminelles, comme L'homme qu'on aimait trop, par exemple, avec Guillaume Canet et Catherine Deneuve, comme aussi avec Guillaume Canet, La prochaine fois, je viserai le cœur, qui est un très très beau film. Nous avons des histoires sous forme de comédie musicale, comme le film de Tony Catliffe, par exemple, qui s'appelle Géronimo, et qui utilise les corps des danseurs et la musique à la place de la violence, mais qui exprime ce côté explosif de la vie des gens du voyage. Vous avez également de très belles ouvertures et fermetures, Tokyo Fiancé, que vous avez vu, hein, qui est adorable. Ouais.
Et pétillant. Ce qui est bien, c'est un film où monsieur, madame, tout le monde, de quelle que soit votre origine, vous vous retrouvez à travers ce film.
Absolument, absolument. Et puis aussi, le film de clôture avec...
Et il y a du beau monde.
Oui, très très beau. Et puis Brice Covin sera là.
Est-ce qu'on peut le dire ça en ondes? Il y a des beaux corps aussi dans ce
pourquoi
film.
Pourquoi pas?
Oui, oui, oui. Alors, justement, avec Brice Covin. Et puis, il y a
Et puis,
aussi...
j'aime bien le Japon, il faut bien le dire.
Oui.
C'est mon faible.
Et j'avoue aussi qu'il y a un petit peu ce qui est un thème dans l'air, c'est-à-dire le travesti avec les nuits d'été, par exemple. Et vous avez également avec...
D'ailleurs, les nuits d'été parrainées, je pense, par
Action Positive et Franco Queer.
Merci
du fond du cœur, parce que vraiment, c'est très généreux de leur part. Et également, nous avons sur le même thème le film de Julien Cadieux, Gilda, elle est bien dans ma peau. Un documentaire extraordinaire.
Gilda, c'est la travestie très connue du Québec.
Voilà, du Québec, d'origine française. Voilà.
Décédée pas très longtemps,
pas d'ailleurs. Je crois qu'en 2012. C'est un film hommage, mais une découverte également de comment cet homme, qui a eu 3 enfants d'ailleurs, comment cet homme a créé les plumes, la musique, qui s'est inspirée de Mistinguette, enfin bref, qui a ouvert...
Au Québec, c'est un personnage.
Absolument, mais qui a initié le Québec finalement à justement ce spectacle où il y avait un tourbillon de cabaret à une époque, dans les années, je crois, 60 ou 70, beaucoup de cabarets avec les drag queens, etc. Donc, de très, très, très beaux films.
Alors, ce que je trouve formidable, à chaque année, vous nous présentez des thématiques quand même qui sont des réalités et des fois pas toujours très positives, il faut bien admettre. Et vous nous prenez de front comme ça. Ce sont des films, moi, je trouve, qui demandent des fois débat après la diffusion, là, n'est-ce pas?
Oui, il y en a un dont on n'a pas parlé et que j'ai vu, c'est Maintenant ou Jamais, qui aussi parle justement de la condition féminine et de ce problème. Je ne vais pas dévoiler tout le film,
clou.
Ça vient aussi dans la thématique que Marcel a soulevée tout à l'heure. Et c'est un film, bon, quand on le regarde comme ça au départ, on se dit « Oh, c'est un peu léger et tout, parce que, oh, c'est un peu facile. » Mais si on réfléchit bien au message derrière et tout ce que ça transmet, le désespoir, à quoi ça peut mener, parce que c'est ça, en fait,
ça.
Dans cette femme, si je ne m'abuse, Marcel. Et donc, tous ces films, même s'ils sont un peu légers en apparence, on rit parce qu'il y a des scènes amusantes, amusante et tout, parce que sinon ce serait trop...
Ça lourd.
Vous prendrait à la gorge et vous sortiriez plus tôt que prévu. mais bon, on reste après avec quelque chose. Ce film vous laisse quelque chose et vous ne pouvez pas rester insensible à ce genre de film.
Oui, justement, ce sont des films à veine populaire qui divertissent mais en même temps font réfléchir.
Et cette année, nous serons à Hot Docs. Oui, l'adresse
oui. Alors, c'est le 506 de la rue Bloor West à Toronto.
Alors, tout au long de l'émission, on reviendra sur vos coups de cœur, coups de cœur. Oui. Et si vous, à la maison, vous aimeriez aller à Ciné Franco grâce à l'émission Potpourri, et bien sur les ailes de CIUT et de Ciné Franco. Et quoi, est-ce que VRI va jusqu'à Hot Docs? Non, je ne sais pas. Hein.
Non.
Il y a pas encore de c'est pas VRI, mais c'est tramway.
Alors, à ne pas rater, nous allons recevoir le directeur du département d'études françaises à l'Université de Toronto, Pascal Michelucci, qui sera des nôtres dans quelques minutes. Mais pour tout de suite, une petite pause. Le numéro à composer, c'est le 416-946-7000.
It's that time of year again. Spring is coming and so is the CIUT Membership Drive, April 8th to the 14th. CIUT 89.5 FM, the new sound of your city.
Did you know there are now 8 different ways in which you can listen to your favorite programs on CIUT? From Barrie to Buffalo, Kitchener to Coburg, you can pick us up on 89.5 FM. We also stream online at www.ciut.fm, on Rogers Digital Cable, Channel 946, Channel 970 on Bell 5 TV, Star Choice Satellite offers CIUT on Channel 826, and you can pick us up on the TuneIn Radio app and under College and Campus Radio on iTunes. Finally, you can listen or download CIUT program archives at ciut.fm. CIUT 89.5 FM, delivering the new sound of your city everywhere.
C'est étrange.
Alors,
je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir.
Qui chante cette chanson
première fois.
À vous de découvrir, madame. Voilà.
Toujours des mots.
Dalida. Ah oui, c'est sûr. Là, c'est Dalida.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que
êtes-vous sûr? Je ne sais plus
tu
comment
te dire. Cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Oh, ces beaux films, Marcel.
Ah
oui. J'attends ces films avec impatience.
Ah oui.
C'est trop d'hier, beau. De demain.
Trop beau.
De toujours.
À toujours.
Ma seule vérité.
Mais c'est fini.
Et les 24 heures, c'est quand les 24 heures du roman. Mais ce train, ce foutu de train, où est passé ce train de Virail?
Perdu dans la campagne.
Tu es la voix qui va chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
C'est dommage, hein.
Je suis
parti trop jeune, trop tôt.
C'est vrai, trop tôt.
Tu peux bien les offrir.
Aussi d'origine égyptienne.
Ouais.
Qui aime le vent et le parfum des roses.
D'origine égyptienne, mais italienne aussi.
Aussi,
hein.
Oui, oui.
Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon corps.
Une parole encore.
Parole.
Parole, parole.
Voilà que le monde s'entend encore.
La parole est parole.
On a beaucoup de plaisir ici.
Tu es dans l'ambiance.
Je te jure.
Je vous jure, elles sont sérieuses ces femmes qui sont avec moi, mesdames, messieurs. Une émission très sérieuse.
Allez, parole, parole.
La mondialisation des marchés économiques et le flux croissant de population qu'elle engendre font de l'interculturel un sujet à la mode. Cependant, ces problématiques sont analysées depuis bien bien longtemps par ceux et celles qui tentent de comprendre les mécanismes culturels qui conditionnent ces échanges. Alors, il y a beaucoup de débats, cher professeur Daniel Issa-Sayeh, comme vous le savez, l'Europe, hein, l'Europe. 2015, on en a vu, et aujourd'hui justement ce sont les élections départementales en France.
Oui.
Et le taux d'abstention est assez élevé.
À 13h, oui, il était de 13,6%.
Des pronostics?
Je crains fort que les dés soient déjà joués.
Oui. Quels sont les défis de l'interculturel que doit relever l'enseignant, l'enseignante de français, langue étrangère? Quelle est votre perspective de l'éducation interculturelle au Canada, à Toronto, en Ontario, au Québec? Et c'est la question, la grande question que je vais vous poser tout au long de l'émission. Mais nous allons tout d'abord recevoir avec plaisir notre commanditaire principal de cette, ce voyage dans la francophonie tout au long du mois de mars. Professeur, directeur Pascal Michelucci, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour Daniel.
Bonjour oui. Pascal.
Est-ce que vous chantiez, vous dansez, vous aussi à la maison avec nous?
J'écoutais de la musique, mais il vaut mieux que j'évite de chanter.
Ah oui, oui, oui. Et alors, le son passe depuis 11 heures, oui?
Oui, tout à fait, oui.
Alors, eh ben, bon mois de la francophonie. Encore une fois, merci de votre contribution, de votre soutien. Encore une fois, grâce à vous, grâce à, au département d'études françaises, nous avons pu faire voyager les gens dans cette Amérique et francophone. Alors, professeur, quelle est votre définition de l'Amérique francophone?
L'Amérique francophone, c'est déjà un espace où la culture dominante est principalement en anglais. Et donc, c'est peut-être pour cela que les communautés francophones sont bien organisées, généralement actives, dynamiques. Comme à Toronto, il y a des théâtres, il y a une vie culturelle, il y a des soirées. Cette semaine, je suis allé à la soirée Franco Open Mic. Ça faisait chaud au cœur de voir tous ces francophones en train de chanter des classiques et des chansons traditionnelles d'Acadie et de nord de l'Ontario. Donc la communauté francophone en Amérique du Nord doit être vivante et je pense que c'est aussi beaucoup dû au contexte nord-américain où l'anglais est dominant.
Alors je suis justement en ma compagnie, nous avons la chance et le bonheur d'avoir trois personnages, parce que quand on parle de ce roman qui va nous faire rêver dans le cadre de des festivités du 400e anniversaire de présence francophone en Ontario. D'ailleurs, vous en êtes partie, vous en faites partie, vous êtes dans le coup, n'est-ce pas, comme on dit. Et puis Ciné Franco, qui est quand même maintenant, je veux dire, un organisme incroyable qui se déploie chaque année pour nous présenter ce voyage à travers le cinéma francophone, Madame Marceline. Et puis, bien sûr, nous avons votre amie, collaboratrice, professeure Danielissa Sayeg, qui est avec nous depuis plusieurs années, qui vient faire de la radio, qui laisse tomber tous ses livres, ses amis, ses habitudes du dimanche. Et non, il faut rendre hommage, je pense. On le fait pas assez souvent. Et si vous aviez à rendre hommage, justement, aux gens au studio ou encore des gens de la francophonie torontoise, qui seront ces personnes, ces personnages pour vous?
Les collègues de mon département sont importants parce que ce sont des passeurs non seulement de la langue française mais aussi de la civilisation française à des générations de jeunes Canadiens qui découvrent par curiosité, par passion ou simplement par hasard que le français et la culture française est une culture mondiale, pas simplement cantonnée à l'ancienne Europe. Et donc quand ils découvrent la littérature des Caraïbes, la littérature africaine ou le cinéma africain, c'est souvent une révélation et je pense que c'est important d'avoir des acteurs qui sont aussi des éducateurs, des transmetteurs dans notre communauté. Mais il y a aussi l'Alliance française qui fait un travail extraordinaire dans la ville depuis plusieurs années, particulièrement Patricia Guérin qui fait un travail merveilleux dans la programmation culturelle à Toronto. Il y a Marceline depuis très longtemps qui organise le festival Ciné Franco en cinéma. C'est aussi un événement de la ville. On sait que Toronto est une ville importante pour le cinéma, mais elle l'est aussi pour le cinéma français en Amérique du Nord.
Merci.
D'ailleurs, si vous allez sur le site de la Francophonie des Amériques, vous allez tomber sur la page de Ciné Franco avec toute la programmation. Je trouve ça formidable. Donc, bienvenue dans le club des francophones des Amériques.
Merci.
D'avril.
Oui. Alors, le vin, il faut bien reconnaître, malgré les difficultés avec la grève à l'Université de Toronto, vous avez quand même organisé, tenu à organiser un petit événement autour des croissants, café. Je pense que ça a eu beaucoup de succès. Est-ce que les gens sont venus par curiosité ou juste pour le café et le croissant?
On a fait un petit peu de publicité, mais en fait, je pense que le bouche à oreille a très très bien marché. L'idée du croissant a en fait attiré tout le monde vers le français, et comme quoi c'est aussi souvent par les sens et par la sensualité qu'on attire les amateurs vers la langue et vers l'intellectuel, non?
Très bien. Alors, autour de la table, est-ce que vous aimeriez partager un petit mot, professeur Pascal Michelucci?
En tout cas, j'aime beaucoup l'idée justement de transmission et de passage qui est tout à fait vraie et centrale et qui est justement la mesure de l'extension après et de l'expansion de mettre sur le marché et dans la société des étudiants qui auront été formés. Et ça, je dois remercier effectivement le département de français de l'Université de Toronto. Enfin, moi, je suis une ancienne de l'Université Victoria, mais aussi à toutes les universités qui essayent justement de faire ce métier qui n'est pas facile.
Est-ce que, professeur Michelucci, vous avez un vœu à faire si vous aviez à présenter, par exemple, au gouvernement canadien pour l'amélioration de l'apprentissage de la langue française, la culture francophone au Canada, quel serait ce vœu?
Ça serait peut-être d'être moins administrateur dans la considération de qu'est-ce qui constitue un franco-ontarien, par exemple. Je pense qu'il y a plusieurs manières de pratiquer le français, de l'aimer, de le faire vivre au quotidien. Et la définition ordinaire, administrative de la province n'est pas exactement très très claire. Et je pense qu'il serait bien d'avoir une approche plus inclusive qui tienne compte aussi du bilinguisme beaucoup plus que de la langue dominante ou de la langue principale. Je crois que ça serait bon, bénéfique en tout cas pour le français et puis en fait pour toutes les langues secondes ou secondaires par exemple que nous pouvons rencontrer en Ontario et au Canada.
Donc pour vous actuellement il y a quelques petits obstacles qui vous empêchent de bien propager cette langue en tant qu'enseignant?
La reconnaissance du véritable bilinguisme ou plurilinguisme serait une bonne chose, serait bénéfique. Plutôt que d'avoir toujours cette idée qu'il y a les francophones d'un côté et les anglophones de l'autre côté, et puis il semble qu'il n'y a pas beaucoup de pratiques intermédiaires.
Autour de la table, vous avez des réactions?
Non, je peux juste aller dans le sens, en tant qu'enseignante, de ce que Pascal vient de dire, parce qu'il est évident qu'en Ontario, on aura beaucoup plus de francophiles, peut-être, ou de gens aimant la langue française, sans être vraiment considérés, d'après la définition officielle, comme des francophones. Donc, ce serait dommage de priver cette partie de la population torontoise ou même ontarienne d'avoir accès à certaines possibilités d'éducation ou de accès à des événements culturels comme Marcel et Anne représentent ici autour de la table leurs différentes activités. Et on en parlait tout à l'heure, c'est aussi difficile. Bon, il faut être réaliste. L'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Et pour faire des activités, si on n'est pas, par exemple, franco-ontarien, selon la définition officielle, on n'a pas droit à certains fonds.
Je pensais que ce débat avait clos ou n'existait plus?
Personnellement, dans mes demandes de subvention, je me suis cognée effectivement au fait que le français, finalement, était considéré comme une autre langue. Même pas le bilinguisme, même pas francophone, anglophone. Mmh. Nous étions un petit peu des citoyens de deuxième zone. Et puis, d'ailleurs, je m'étais un peu énervée à un moment donné dans une de mes entrevues et j'ai dit en fait alors vous considérez un festival coréen ou un festival chinois beaucoup plus important finalement que un festival francophone. D'autre part, je dois dire que notre public est composé presque de moitié de francophiles, de cinéphiles qui ne sont pas nécessairement francophones. Donc, ça fait partie de, si vous voulez, de notre patrimoine de transmission également et de stimulation pour ces personnes qui vont également entretenir la flamme francophone.
Donc, il y a encore des cloisons qui existent. Comment faire pour décloisonner cette francophonie qui est tellement riche, tellement diverse en Ontario? Je pense qu'il y a plus de 144 différentes langues, si ce n'est pas plus, dont on parle dans cette ville. Anne?
Moi, je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur les anglophones pour faire rayonner la francophonie, parce que si on reste entre franco-français, francophone, ontarien, etc., on va être perdu très vite. Mm. Donc il faut que tout le monde travaille ensemble et que ça circule.
Alors Pascal, je sais que vous avez plusieurs projets, il y a même des petits bijoux qui existent dans votre département, et vous êtes très modeste et très humble. Par exemple, j'ai découvert qu'il y a des échanges entre votre département. Hein, il y a des étudiants qui vont, que ce soit à Québec ou en France. Et il y a des Français qui viennent chez vous. Parlez-nous un petit peu de ces échanges et dans quel but tout cela se passe chez vous.
Oui, l'idée, c'est d'encourager nos étudiants à être mobiles. Mmh. On parle beaucoup de la mondialisation, mais si la mondialisation, ça reste une idée abstraite et pas une réalité vécue par des gens, je pense que c'est pas trop la peine de s'y attarder très longtemps.
Alors comment ça se passe, ces échanges?
L'idée, c'est d'enrichir vraiment la vie, l'expérience de nos étudiants, de nos étudiantes qui peuvent enfin avoir un moment dans leur vie dans un pays où le français est exprimé dans toute sa richesse, dans toute sa variété. Et donc, l'idée, c'est de permettre à nos étudiants d'aller passer deux trimestres pour étudier dans une université française, à l'université de Nice. Et je vois cette année que le programme a eu...
Ouais, c'est un beau climat, quand même, Nice.
En plus,
comme par hasard.
Comme par hasard.
Ils reviendront jamais.
Ouais, vous allez étudier...
Le soleil ne doit pas être trop grand non plus.
Oui. Il y a un consortium, je n'ai pas le mot exact, aidez-moi, à l'Université de Toronto, de la francophonie. Comment ça s'appelle?
Un consortium.
Oh non, c'est le centre d'excellence pour la francophonie.
Voilà.
Oui, le centre d'études du monde francophone.
Justement, personne, je ne pense pas qu'il y a grand monde ici à Toronto ou dans le monde qui est au courant que ça existe chez vous. C'est quoi?
C'est une branche administrative de l'université qui chapeaute une série d'activités en français, principalement dans des buts universitaires, académiques, pas vraiment dans le but grand public, mais quoi que ça puisse arriver.
Oui.
Mais donc c'est un centre qui fait venir des chercheurs, qui organise des événements, par exemple autour de la Première Guerre mondiale. Cette année, il y en a eu plusieurs. Et puis, l'année prochaine, il y aura peut-être encore d'autres choses à ce sujet.
Tenez-nous au courant. Nous sommes très, très curieux.
Bien, oui, oui.
Très bien. Alors, restez des nôtres. Et puis, qui sait, peut-être avant la fin de l'émission, on va vous rappeler encore une fois. Mais sinon, on me dit qu'il faut qu'on passe à Paris parce qu'il y a le printemps de... Bourges.
Qui n'est pas à Paris.
Non, ça se passe pas à Paris, mais leur correspondant est à Paris. Alors, peut-être, qui sait, quelqu'un ira voir les meilleurs spectacles de son choix. Je vous remercie beaucoup, Pascal, et encore une fois, de la part de toute l'équipe, merci du fond du cœur pour cette collaboration spéciale, unique, entre le département d'études françaises de l'Université de Toronto. Merci à vous et, bien sûr, votre collègue, professeur Daniel Issa-Sayeg, et aussi toute l'équipe du département.
Oui, au revoir, Marcel. Au revoir, Anne. À bientôt.
Au revoir, Pascal. Eric.
Au revoir.
Au revoir.
On consomme peu de graisse et le nombre d'infarctus y est plus faible qu'aux États-Unis. En France, on consomme beaucoup de graisse et le nombre d'infarctus y est plus faible qu'aux États-Unis. En Inde, on boit peu de vin rouge et le nombre d'infarctus y est plus faible qu'aux États-Unis. En Espagne, on boit beaucoup de vin rouge et le nombre d'infarctus y est plus faible qu'aux États-Unis. Au Brésil, on fait beaucoup plus l'amour qu'en Algérie et le nombre d'infarctus des deux pays est plus faible qu'aux États-Unis. Conclusion, buvez, mangez, faites l'amour autant que vous voulez. Ce qui peut tuer, c'est de parler anglais.
Sortir de l'ombre, partir de loin, revenir au monde, entendre ta voix, tendre les bras et tenir jusqu'au bout. J'ai peur, tu sais, que tout en moi se laisse aller. J'ai peur de tomber, d'abandonner. Je veux rester debout.
De l'ombre, et oui, c'est ce que nous espérons vous allez faire, vous aussi, vous allez sortir de l'ombre et découvrir avec nous les films de Ciné Franco tout au long du mois, tout au long du mois d'avril, c'est presque deux semaines quand même. Alors merci encore d'être là. Si vous voulez gagner un laissez-passer, madame, monsieur, vous nous appelez, donnez-nous le mot préféré, votre mot préféré en français. Et justement, il y a un certain Gilles qui nous a appelé la semaine dernière, professeur Issa-Sayeg, pour nous dire que son mot préféré, c'est hilarante.
Ah,
hilarante.
C'est pas hilari.
Et j'espère que l'émission... Alors, ça existe, hilarante dans le dictionnaire?
Oui,
oui, oui, oui, hilarante, hilarante.
Oui, oui.
Hilarante, elle la rentre. Non, non, alors c'est une émission, c'est une émission hilarante.
Très hilarante.
Moi, je me rends pas compte. C'est tir à la ronde. Non, on est sérieux quand même. Alors, 86 946 7000. Et aussi, c'est une émission justement de clôture. Ensemble, l'Amérique francophone, émission spéciale. Et je suis très heureux d'avoir Marcel, Daniel et Anne. Merci d'être là. Nous avons le bonheur d'avoir la gentille Mathilde aussi, qui sait, qui peut-être pourrait un jour être bénévole avec
oui,
nous au Ciné Franco.
Son pont d'Avignon,
oui, oui,
quand
oui,
même.
Le pont d'Avignon, le pont d'Avignon. Elle est d'Avignon, elle est d'Avignon, en effet. Et puis, bien sûr, DJ Devera. Merci beaucoup d'être là. Alors, vivre dans un océan anglophone, mes chers amis, comporte bien des défis. Je vous invite à jouer avec moi et en proverbe, s'il vous plaît. Quelles sont les significations suivantes? Alors, je sais qu'il y a des traductrices autour de la table. Si je vous posais la question suivante, le proverbe suivant, c'est « Ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces ». Et la version anglaise, c'est
« You don't teach a dog all tricks ».
Non, c'est un truc comme ça, oui.
You can't teach
a dog all tricks. Non.
An old dog.
New tricks. Ah ben voilà.
Voilà, il y avait des ouais.
Mais bon,
il y avait les mots essentiels.
Ouais. Oui. Et dans les Amériques, et surtout en Louisiane, la version, vous savez, c'est quoi?
Non.
You can't teach granny to suck eggs.
Ah ben bravo.
Oui.
C'est pas alors.
Comment oui. ils en sont arrivés
je
là
sais. Alors,
oui, je sais pas.
Pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est quoi la version anglaise?
No news.
Bien oui. fait. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs.
Ah, attends.
Je passe.
Moi, je le savais, mais
moi aussi,
ça ne
me revient pas.
Non.
Dimanche matin,
Anne,
comme ça.
Moi, j'avais un livre des expressions idiomatiques.
Mais ouais. Don't put
the cart before the
horse.
The horse. Ouais. Ouais. Voilà, c'est
il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est très à la mode, ça.
C'est don't put all your eggs in the same
basket. In one basket. Il ne faut
surtout
pas...
avec les œufs de Pâques. Hein.
Oui, c'est vrai.
Faire attention. Là.
Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.
Je sais pas, moi.
Mais ce sont des expressions qu'on entend souvent.
Tomorrow is another day.
Don't postpone to tomorrow what you can do today.
Never put off. Wow. To tomorrow, what can be done today. Il ne faut pas réveiller le chien qui dort.
Oh, don't let the dog lie, so, je sais pas quoi.
Attention. Il y a des gens qui prennent ça très au sérieux, hein. Allez, c'est quoi? Il ne faut pas réveiller le chien qui dort.
C'est don't let the dog lie.
Non,
vous avez réveillé
un truc comme ça. With sleep. Il y a un truc.
Don't let sleeping dog lie.
Ah oui, let sleeping dogs lie.
Yeah,
voilà. Et toutes les bonnes choses ont une
All good things have an end.
All good things come
to an end.
Voilà. Alors,
c'est
la fin.
Bon, il est pas tenu là.
On y arrive.
Ah oui, voilà, c'est ça. Il faut être trois. Combien de personnes
sans dictionnaire en plus.
Voilà.
Une ampoule.
Alors, cette fois-ci, vous écoutez bien la chanson qui suit. Et vous me donnez la réponse.
Je savais pas qu'on passait un test aujourd'hui,
dis donc.
Discarded by the national network, wrapped in plastic and referred to as product by commercial radio, removed from the curriculum by provincial educational authorities, classical music has been driven underground. A rich musical, cultural, and intellectual tradition has been consigned to the rubbish bin, but not at CIUT-FM. This is Philip Conlon. Listen to Classical Underground on Wednesdays at 6 to 8 p.m. as we bring classical music to radio. Mixed with poetry, literature, history, commentary, and plain kibitzing, we celebrate a great musical tradition and do our part to revive this neglected art form.
CIUT 89.5, the new sound of your city.
The CIUT 89.5 FM Spring Membership Drive is happening April the 8th to April the 14th. Become a member before April the 8th, and you will be entered into two special early bird draws for a VIP package for two people to the Fashion Arts Toronto Festival or a $300 Steve's Music Gift Certificate. To donate, go to www.ciut.fm.
Right here, right now. Every day, CIUT 89.5. The sound of your city. Toronto.
Tout de suite, les infos avec vous
allez... Alors là, c'est les bêtisiers du journal télévisé. Ça arrive, hein, la langue française est une langue très difficile. Écoutez bien, madame, monsieur.
Bonjour, j'arrive en retard.
On est en direct là. Hein.
Ah oui, d'accord. Ah, oui, oui, oui.
1000 participants qui seront versés. Mais il n'y a pas plus de. C'est pas 1000 participants qui ont été versés. C'est 1000 participants qui, chacun, ont versé 50 francs pour l'association Regain contre la lutte pour la drogue. Contre la lutte, je suis complètement perdu.
Oui, c'est pas facile d'être animateur de radio et de télé, surtout du journal télé. On a beaucoup de plaisir, madame, monsieur, avec cette langue française. La langue de Molière, nous dit-on. Oui. On est en direct toujours sur le plateau du
téléjournal. Parce que ces théories se banalisent, et je cite le rapport, parce que les CD, elles se banalisent, mais je ne trouve plus la phrase dans les partis de la droite populiste, excusez-moi.
Un petit clin d'œil à Hélène Dionne et une autre Hélène, toutes les trois sont centenaires. Excusez-moi.
Elle va pas s'en remettre.
Excusez-moi.
Elle a pourri. Hein.
Ah oui, oui.
Excusez-moi, je vais m'en reprendre. Donc toutes les trois sont centenaires et l'une d'elles fête son anniversaire aujourd'hui, jour de Noël. Elles sont pensionnaires de la même maison de repos à Bligny, près de Liège. Vincent Jamouli et David Muller les sont rencontrés.
C'est la ministre de l'Eau, c'est la date de l'armistice. Excusez-moi. Il faut noter qu'Aura... J'y arriverai quand même.
Monsieur Jospin, s'il vous plaît.
Alors, c'est pour vous dire que c'est pas toujours facile, hein, avec la langue française, n'est-ce pas? Alors, cette fois-ci, nous allons passer, je pense, à une chanson, non? Où est-ce qu'on s'en va? Peut-être on va aller à Paris avec notre ami Serge Beyer. Vous savez, il est le fondateur du festival qui ne s'achète, du magazine plutôt. Qui...
Ah ben voilà,
On est dans un festival. On est dans un festival.
Ça y est, c'est pour rire.
Alors, le printemps de Bourges 2015. Musique, s'il vous plaît. Alors, découvrez la programmation complète avec notre collaborateur Serge Beyer, qui est fondateur du magazine Longueur d'onde. Le magazine qui ne s'achète pas.
Pas vraiment. Alors là.
Et le festival. Est-ce qu'on s'achète? On achète le festival.
Je sais pas trop, là.
Non, mais. Ça doit coûter une fortune, monter un festival.
Mais absolument, oui, absolument, c'est très très cher. C'est très cher,
ouais.
Non, vraiment.
Et c'est épouvantablement cher.
Et ça dépend vraiment non seulement des subventions, mais dans notre cas, il faut louer les films, louer les salles de cinéma. Le marketing coûte une fortune. Et ça n'en finit pas. Et bien sûr, le personnel, bien que nous travaillons chacun pour deux ou trois personnes, il y a des volontaires, il y a des Yvette Sherman, moi-même, on travaille 24 heures sur 24 pour rien, en fait. Mais enfin, pour notre passion, pour la partager avec les autres, mais matériellement,
mais
non.
Vous travaillez pas pour rien. Vous travaillez
pour rien, je veux dire, d'un point de vue matériel, mais c'est pas ça qui compte.
Ensemble, l'Amérique francophone, madame, monsieur, émission spéciale de clôture du mois de la francophonie, édition 2015, et merci d'être là. Vous pouvez joindre notre amie Mathilde, qui attend votre appel, au 86 946 7000, la francophonie, qu'est-ce que c'est? Ou encore, partagez vos coups de cœur, vos mots préférés. Alors, le printemps de Bourges avec avec notre ami qui nous attend en direct à Paris pour de vrai, Serge Beyer. Bonjour Serge.
Bonjour.
Et bienvenue à la francophonie torontoise des Amériques.
Eh bien, bonjour la francophonie.
Oui, alors vous êtes en compagnie avec trois charmantes dames ici à mes côtés. Nous avons Anne Wilson. Oui.
Forrest Wilson,
ça voilà. Ah, ça va pas aujourd'hui, oui. On est
bonjour
très.
Serge.
Oui.
Bonjour.
On a beaucoup de plaisir ici, Serge. Alors, et puis nous avons bien sûr Marceline, qui est la fondatrice d'un gros festival francophone international à Toronto, et on fête les 18 ans de ce festival à Toronto. Oui, je sais. Et puis bien sûr, professeur Daniel Issa-Sayeg, qui est mon bras droit, mon bras gauche, je ne sais pas.
Depuis, je suis la bécane.
Depuis près de 25 ans, hein, on fait cette émission spéciale. Oui. Et alors, on ne pouvait pas passer à côté sans vous avoir, la sauce ne serait pas intéressante sans avoir la participation et la pincée, justement, de Serge Beyer. Comment ça va? Je sais qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour les Français parce que vous êtes au deuxième tour de ces élections départementales.
Tout à fait.
Et vous êtes dans vos petits souliers, petits papiers. Comment sentez-vous?
Ah ben moi j'ai fait mon acte citoyen. Ouais. Après chacun va agir avec ce qu'il est. Le plus désolant c'est quand même qu'on est pas loin de 50% d'abstention.
Wow.
D'une manière générale. Dans le pays, enfin la semaine dernière c'était le cas, donc c'est un petit peu dommage qu'un Français sur deux n'aille pas voter, quoi.
Oui.
Voilà. Alors. Donc du coup les élections donnent une partie de la réalité puisque un Français sur deux ne vote pas et après il faut prendre en compte ceux qui ont voté.
Oui.
Uniquement.
Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent depuis quelques heures?
Je sais pas, j'ai pas du tout suivi parce que nous on a en fait en France on vote jusqu'à 20h et jusqu'à 20h chez moi il est 18h donc jusqu'à 20h personne ne peut donner aucun résultat pour pas influencer le vote.
Ah oui, très bien.
Donc je ne sais pas vous dire là.
Donc on va pas influencer le vote de nos auditeurs internautes qui nous écoutent à Brest ou encore à Lyon ou à Toulouse ou ailleurs. Alors le printemps de Bourges, on va changer de cap. Le printemps de Bourges.
Oui.
Et c'est quand même une édition un peu spéciale, n'est-ce pas?
Eh bien, le printemps de Bourges, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'année dernière a changé de patron. Mmh. Le patron qui a créé le printemps de Bourges est en train de se retirer. Il travaille encore sur le printemps cette année et peut-être un peu l'année prochaine. La personne qui a créé le printemps de Bourges est aussi le manager de Jacques Higelin et puis propriétaire du Zénith à Paris. C'est quelqu'un qui est impliqué dans la musique depuis très longtemps et qui veut céder la main. Et le nouveau patron du printemps de Bourges, c'est le nouveau patron aussi des Francofolies depuis quelques années.
Ah oui.
Celui qui a pris le relais de Jean-Louis Foulquier, qui est parti d'abord à la retraite avant de partir tout court. Et donc cette personne vient de racheter le printemps de Bourges. Donc on vit une année, enfin deux années.
Quel est son nom?
D'évolution et de changement dans le sein du printemps de Bourges.
Quel est son nom?
Pardon?
Quel est son nom?
Gérard Pont.
Très bien.
Le nouveau directeur s'appelle Gérard Pont.
Mmh.
Et par contre, quand on voit la programmation, on reste tout à fait dans la lignée de ce qu'on connaît, à savoir internationalement beaucoup de noms connus, quelques risques à prendre avec des artistes en découverte. Mais il faut savoir que le printemps de Bourges, c'est en fait plusieurs lieux dans la ville, dont un énorme chapiteau monté juste pour l'occasion. Et donc, on est obligé d'avoir des artistes assez connus pour remplir ces gros lieux. Et après, il y a des salles plus petites et on peut se balader, découvrir un printemps de Bourges qu'on choisit à la carte.
Mmh. Alors, je vois ici beaucoup de noms qui sont très connus. Est-ce qu'il y a des Québécois dans la liste des invités?
Il y a Pierre Lapointe qui investit plusieurs jours un théâtre, un joli petit théâtre au cœur de la ville de Bourges. Et il fait, je crois que c'est Paris Tristesse qui fait son nouvel album, là, Piano Solo, qui sera invité plusieurs soirs là-bas. En fait, au niveau, j'ai pas, à vrai dire, j'ai pas tout épluché. Je sais pas trop s'il y a beaucoup de Québécois en dehors de lui. Généralement, il y en a toujours aussi dans les découvertes, parce qu'il y a une sélection de découvertes annuelles qui s'appelle les Inouïs du printemps de Bourges. Et là, on retrouve un petit peu des jeunes artistes de toutes les régions et aussi du Québec.
Est-ce que les jeunes français écoutent encore beaucoup de la chanson française, des musiques et des chansons francophones?
Ben, j'ai un peu honte d'intervenir dans cette émission, parce que si on cite les derniers artistes qui marchent bien en France, comme Christine and the Queens par exemple, qui est complètement française, Sheila Sou qui est belge, enfin il y a énormément d'artistes qui ne chantent plus en français.
Ah.
Il chante vraiment The Do, qui a été la révélation rock et des victoires de la musique. Là, par exemple, est une chanteuse qui chante complètement en anglais. Les derniers artistes comme Skip the Use ou Chaka Ponk s'expriment aussi en anglais. Disons que ce qui marche au niveau francophone, c'est plus la variété que le rock. Alors on va citer Zaz, par exemple, qui est une artiste qui, elle, chante en français et qui fait de la variété. Il y a beaucoup de choses comme ça, mais il y a quand même beaucoup plus. Même il y a la fille de Jackie Jean qui s'appelle Isia, qui vient de sortir pour la première fois son troisième album en français. Je n'ai pas encore écouté, je ne sais pas ce que ça donne, je ne connais qu'un titre, mais jusqu'à présent, cette fille chantait aussi en anglais. Donc je dois hélas reconnaître que la francophonie en France, au niveau musical, c'est pas la priorité encore aujourd'hui.
D'ailleurs, quand on écoute les émissions, surtout à la radio et à la télévision, je dirais, on utilise beaucoup d'anglicismes, je trouve. Hein.
Oui.
Par exemple, the newsroom. On peut pas dire salle de nouvelles. Ouais. Pourquoi vous dites the newsroom?
Je n'ai aucune explication ni justification, mais même parfois honte. Hein. D'ailleurs, c'est assez bizarre, il y a des mots qui sont rentrés, mais récemment, hein, dans le langage français, qui me sidèrent. Par exemple, à la télé, quand on passe à en grande audience, eh ben, on ne fait plus une émission de grande audience, on fait un prime.
Oui, oh, c'est ça.
Non, mais n'importe quoi. Prime. Et je vous assure que c'est absolument désolant, mais je suis obligé aussi de le constater. Sur les écrans publicitaires français actuellement, disons qu'une publicité, qu'il y a au moins dans chaque spot publicitaire une publicité totalement en américain.
Oui.
C'est-à-dire que c'est même pas doublé. On voit Georges Clooney qui parle What Else, mais ils l'ont pas doublé. Ils parlent en anglais. Et puis il y a même pire, il y a des marques françaises de voitures qui font de la publicité tout en anglais et sous-titré.
Oui, je regarde iTélé régulièrement et puis je suis sidéré. D'entendre tant d'expressions. Remarquez que ici aussi les Américains, les Torontois disent de temps en temps m'appelle grand fromage.
Incitez-les à continuer à parler de grand fromage, bon sang. Incitez-les.
Ou encore the French touch. Ça, c'est un mot qu'on voit dans le métro, ici à Toronto. On voit souvent de temps en temps des petites expressions à la française. Mais je pense, pour nous, Nord-Américains, c'est comme si on veut imiter, épouser et montrer notre ouverture d'esprit face à la langue française, mais sans nécessairement épouser cette culture dans son ensemble. C'est juste pour rendre joli, je ne sais pas, ou sympathique. Comme marque de politesse, n'est-ce pas?
Oui, enfin, il y a une espèce de snobisme dire on est quand même dans la culture française. Alors voilà.
Oui. Alors, est-ce qu'il y a un peu d'espoir quand même? Alors, il faut rappeler aux gens que Serge fait la navette entre le Québec et la France régulièrement, pauvre. Il va assister. Non, mais vraiment.
Pas désagréable.
Pour notre.
Je suis bien obligé de le faire.
Oh là là. On vous plaint.
Lui, ce qu'il fait, son dada, c'est de faire rayonner les chansons, les artistes francophones, européens, et c'est des échanges. Grâce à lui, nous avons pu découvrir beaucoup de talents français, mais aussi le rock, le punk, dans tout son ensemble, dans toute sa diversité.
Serge vient nous voir à Toronto.
Et vous êtes allé même à Tadoussac. Il nous a fait découvrir vraiment dans des racoins du Canada, du Québec, que nous, on ne savait même pas. Il y a même des églises, dans des sous-sols d'églises, il y a des spectacles spectacle de, oui. de chansons francophones. Alors parlez-nous un petit peu de ces expériences, parce que c'est ça que je trouve formidable, c'est d'avoir un Français ou bien un Québécois qui part comme ça à la découverte et qui nous font rêver, qui nous font voyager, parce que on s'imagine que ici on est malheureux toujours, on n'a pas assez, et que voilà, il y a des ouvertures et des innovations, je trouve, dans le monde culturel. Parlez-nous de ces échanges, de ces expériences.
Ne serait-ce qu'à côté de Montréal, vous avez le festival de Granby. Oui. Vous pouvez aller voir des spectacles dans le zoo. Moi, j'ai vu Daniel Boucher au milieu du zoo. Qui donnait un concert. Je vous assure. Vous allez en effet à Tadoussac et dans le sous-sol de l'église, c'est la salle principale du village. Et vous voyez Betty Bonifaci parler des esclaves dans le sous-sol de l'église. Oui. Vous allez à Rouyn-Noranda, vous pouvez voir des aurores boréales. Et vous avez des, vous allez dans les petits bars de la ville pendant le festival des musiques émergentes. Et il y a aussi des concerts complètement improbable. Donc il y en a un petit peu partout. En effet, il faut avoir envie de découvrir. Mais moi, je m'intéresse à la musique actuelle, aux musiques émergentes. Donc forcément, je suis obligé d'aller dans des endroits, des fois, un petit peu insolites. Oui. Et ça me plaît beaucoup.
Ben, très bien. J'espère qu'un jour, vous viendrez avec vos bagages. Parce qu'on dit le voyage...
Les voyages forment
la jeunesse.
Et déforment les valises.
Et déforme les valises, voilà.
Ouais, ben moi, j'ai tout qui est déformé. Hein. Et les valises et la jeunesse.
Alors, très bien. Je sais que vous êtes aussi collaborateur à Radio France Internationale. Je ne sais pas si vous le faites encore, mais à Radio Canada. Oui. Vous avez roulé votre bosse, comme on dit, et vous continuez à nous faire rêver. Continuez. Merci, merci mille fois de la part de toute l'équipe, mon cher Serge, d'être des nôtres. Et puis, on va croiser les doigts avec vous. On va aller prendre un peu de champagne. Voilà. Pour assister aux résultats départementaux, de ces élections départementales.
Oui.
Ok.
Voilà.
Allez, on dit.
Et rendez-vous au prochain festival alors.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Allez, bonne fin de journée. Au revoir.
Merci.
messieurs, bienvenue à notre dernière émission du mois, émission de clôture, professeur Issa Saïeg. Nous avons voyagé vraiment tout au long du mois et merci encore de votre contribution. Vous étiez ma copilote.
Oui,
ouais. N'est-ce pas?
Oui, on a beaucoup voyagé, mais enfin...
Et moi, j'étais un bon pilote, j'espère. Oui.
J'espère que vous m'avez fait le coup de l'avion.
Vous envoyez des fleurs, je vois.
Non, non, je lui ai dit, j'espère qu'il ne fait pas le coup de l'avion.
Non, l'avion va au bon port, madame, monsieur. Grâce à DJ Levera, vous écoutez en ce moment un groupe que j'aime beaucoup, le Locobi. Vous savez, cette francophonie, quand je regarde un petit peu les chiffres du centre de la francophonie des Amériques, 20 000 membres du centre de la francophonie des Amériques actuellement, 33 millions de locuteurs de français, 54 états et territoires des Amériques. Pour cela, il faut célébrer, n'est-ce pas? On oublie souvent qu'il y a des millions de gens à travers la planète qui s'attellent comme ça à la langue française. Et quelles sont les raisons d'après vous?
La beauté de la langue.
Voilà, oui, c'est
la beauté
c'est
de la culture.
Oui. Oui.
Une culture riche.
Oui.
Ben, c'est l'histoire aussi. Ouais. C'est l'histoire qui est derrière. Et puis, il y a aussi toutes ces idées de, qui véhiculent les grandes vedettes, le parfum, la mode, le luxe. Et ce sont quand même des vedettes comme, je ne sais pas, Angelina Jolie pour Vuitton. On en dirait d'autres. Mais je crois qu'il y a quand même un parfum de...
C'est le cas de le dire.
Oui, c'est ça, de rêve. Mmh. Un parfum de, d'une culture noble. Enfin, quand on parle de culture, c'est vaste. Hein. On parlait tout à l'heure justement de l'Américain qui s'apprenait dans certains pays avant que... Ou l'Américain ou l'Anglais, avant le Français. C'est... Il y a une culture aussi là. Il y a porter le jean, aller prendre un café à Starbucks. Il y a les grandes vedettes. Il y a Hollywood, il y a George Clooney. Il y a tout ça.
Mais l'argent aussi, quand l'argent s'y mêle dans la culture, je veux dire, on ne peut pas tellement aller à l'encontre de la culture américaine, je trouve. C'est ça que je trouve le danger. C'est que quand on veut rester peut-être dans une forme assez originale dans son pays, son territoire, on sait même qu'en France, dans ces réorganisations des territoires et des départements, il y a beaucoup de groupuscules qui élèvent la voix parce qu'ils ont peur de perdre leur identité. Unique et un peu la même chose au Canada aussi. Il y a certaines régions, je sais qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui habitent dans certaines régions du Canada, qui trouvent qu'ils sont plus proches des Américains que des Canadiens, par exemple.
Imaginez un peu fusionner, par exemple, l'Alberta avec le Québec. Mm. Vous verrez ce que ça donne. Mm. C'est un peu ce qui se passe dans le découpage de la carte départementale française. Quand on a l'Alsace, la Lorraine et la Champagne en même temps, bon, ça fait des bulles, oui, d'accord. Mais au-delà de ça, quelles sont les affinités, l'histoire, les langues, les habitudes quotidiennes, comme Marcel mentionnait avec Starbucks, quand on prend son café, etc. Mais là, c'est la cuisine. Il ne faut pas oublier que la cuisine joue un rôle très important dans l'identité aussi. Donc, le folklore, les langues qu'on parle, ainsi de suite. Oui, les vins qu'on boit. Donc, la champagne, les vins d'Alsace, etc. On peut déguster le tout, mais...
Avant qu'on passe à quelques films préférés, vos coups de cœur, Marcel, j'aimerais poser la question à Anne Forrest-Wilson. Quelles sont les activités que vous prévoyez avant la grande fête, c'est-à-dire au mois d'octobre de 2015? Est-ce qu'il y a d'autres activités en cours?
Absolument, on a plusieurs activités en cours. Il y a le 24 avril, des ateliers d'écriture en partenariat avec Français pour l'Avenir, à Glendon. Ensuite, au mois de juin, on va être présent sur le festival franco-ontarien avec l'idée de faire écrire tout le monde. C'est-à-dire, on a développé un concept écrire ici et maintenant.
et avec des jeux oulipiens très très simples qui vont du plus simple au plus compliqué. Il y en aura pour tout le monde. On aura aussi, on sera présent sur la Francofête du 10 au 24 juillet avec des auteurs, avec des athlètes des Panames, parce qu'on va faire écrire les athlètes. Oui, oui.
C'est tout ça en français. Hein.
Et tout ça, alors en français, bon, on va quand même pour essayer d'être plus visible en tant que francophone, on va aussi faire des jeux en anglais, de manière à ce que les anglophones prennent l'habitude de nous et qui viennent vers nous en français plus tard.
Mmh. Alors, je rappelle aux gens que ce projet, 24 heures du roman, fait partie des commémorations des 400 ans de présence française en Ontario. Et cela s'inscrit donc dans la foulée des commémorations de la fondation de l'Acadie en 1604 et de Québec en 1608, ainsi que du passage de Samuel de Champlain, qui sera avec nous sur la rivière des Outaouais, n'est-ce pas, et ainsi qu'en Huronie, à partir de 1613, je vous souviens, et il était là, alors est-ce qu'on va le revoir, est-ce qu'il revient,
Eric s'en
il
est ressuscité dit,
hein. Eric s'en souvient, oui. Donc c'est formidable. Ouais,
quelle mémoire d'éléphant.
Vous m'appelez un éléphant maintenant, hein. Et vous savez qu'un éléphant, ça trompe.
Oui, mais attention.
Ah oui, attention. Donc, Champlain est généralement considéré comme le fondateur de la Nouvelle-France qui englobait les pays d'en haut, appelés à former l'Ontario d'aujourd'hui. Et donc, c'est un merveilleux voyage, je trouve. Et parlez-nous un petit peu de ce concept de Via Rail.
Alors, Via Rail, évidemment, nous accompagne. On ne peut pas faire sans eux, puisque ça se passe dans un train. Et ils sont très, très enthousiastes et nous accompagnent vraiment avec bonne humeur. Donc, le voyage va démarrer à Halifax le 23 octobre à 11h du matin. Et se terminera à Toronto vers 17h, je me souviens plus l'heure exacte, après un peu plus de 24 heures de voyage et une halte à Montréal où nous allons, grâce à Via Rail toujours, avoir quelques activités sur place pendant un temps très limité avant de repartir. Donc le train est aménagé par Via Rail. Il nous prépare des menus spéciaux Champlain.
Wow.
ils sont très 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 emballés par le projet. Et
peut-être un jour on pourrait monter une émission traverser le Canada,
oui,
à travers la radio et Via Rail.
Ce ne sera pas l'Orient Express, mais ce sera
mais nous allons d'ailleurs faire ça en 2017 pour le 150e anniversaire.
Ouais. Alors, il faut rappeler aux gens que voilà encore une fois une créatrice. Vous arrivez à Toronto, ça fait pas très longtemps que vous êtes ici et que vous avez quand même eu cette idée, vous l'avez lancée et ça a rebondi, comme on dit, auprès de plusieurs partenaires. Il faut bien rappeler qu'il y a plusieurs partenaires
nombreux,
qui font partie nombreux, et entre autres le consulat général de France,
ah, ouais,
qui vous a ouvert ses bras et les portes aussi du consulat. Je trouve que le consul actuel fait un travail extraordinaire,
ouais,
et appuie des initiatives créatrices et
innovantes. Il est extraordinaire.
Oui, oui, voilà.
On a eu beaucoup, beaucoup
et
de
puis,
chance.
Bien sûr, l'Office des affaires francophones, sans la contribution de Madame Meilleur,
Madame Meilleur,
voilà,
Paul Genet,
voilà,
Kelly Burke,
ouais,
qui nous,
ouais,
entoure vraiment, ouais, aussi avec,
oui,
beaucoup de soin.
Alors, j'espère que les gens vont suivre ce parcours, cette trajectoire du train de Via Rail et à travers les 24 heures du roman. D'ailleurs, les 24 heures du roman, comment vous est venue cette idée?
C'est une vieille idée,
oui,
que j'ai gardée dans ma tête pendant, ouais, très très longtemps, parce qu'on a essayé de le monter en France et on n'a pas réussi, il y a une vingtaine d'années. Et tout à coup, l'année dernière, ça m'est revenu et puis je me suis dit, je vais aller voir Via Rail. Et Via Rail a marché tout de suite, donc ça a grandi très très vite grâce à Via Rail, parce qu'on ne peut pas le faire sans Via Rail.
Très bien. Alors, bonne chance et puis bonne route.
Merci
avec
beaucoup.
Via Rail. Très bien. Coup de cœur de film de ciné franco qui démarre dès le 9, le 10,
10 avril.
Le 10 avril, voilà.
Pardon. Oui, oui, oui. Écoutez, c'est très difficile pour dire les coups de cœur parce que ces films sont un peu comme mes enfants, donc c'est difficile de choisir, mais j'en ai quelques-uns quand même. Alors, par exemple, Passons genre de Lucas Bellevaux avec Émilie Dequesne, qui est une fable d'amour entre un philosophe et une coiffeuse. Nous avons également Géronimo, dont je vous avais parlé tout à l'heure. Géronimo, qui est un film, qui est une comédie
comédie musicale à la West Side Story, mais gitane. Nous avons un très très beau film, On a failli être amis, avec deux grandes actrices françaises, Karine Viard et Emmanuelle DeVos, qui jouent une sorte de... si vous voulez, de medley entre deux femmes dont l'amitié va se dérouler dans l'inscription d'une histoire d'amour, et le film de fermeture, évidemment, qui est magnifique.
Et vous allez avoir, je pense, des artistes ou des réalisateurs ou des comédiens, comédiennes sur place.
Effectivement, par exemple, Ceci n'est pas un polar, que j'aime beaucoup, avec Roy Dupuis, et qui est fait par Patrick Gazé. Par contre, nous aurons Christine Beaulieu qui viendra.
Et vous allez les inviter dans notre newsroom.
J'espère. Oui, bien sûr.
Ça va faire le buzz.
On fait une petite pause, on revient tout de suite, madame, monsieur. La francophonie des Américains, le numéro à composer, c'est le 416-946-7000.
En Amérique, on peut entendre les langues autochtones.
L'anglais, l'espagnol, le portugais,
le créole
et évidemment le français. Tout comme son continent, la francophonie des Amériques est belle, vaste et diversifiée.
Saviez-vous que partout au Canada, on peut étudier en français de la garderie à l'université? On retrouve d'ailleurs plus de 20 universités francophones d'un océan à l'autre.
La culture francophone y est aussi célébrée dans de nombreuses fêtes et festivals,
même jusqu'à Saint-Pierre et Miquelon.
Au 19e siècle, les Canadiens français ont traversé la frontière du Sud en si grand nombre qu'on y retrouve aujourd'hui des millions de leurs descendants.
Il y a plusieurs villes majoritairement francophones en Nouvelle-Angleterre. On redécouvre la valeur économique du français en Louisiane et on retrouve de nombreuses populations francophones à New York, en Floride et jusqu'en Californie.
D'est en ouest, le français résonne.
Dans les Caraïbes, c'est plus de 9 millions de personnes qui s'expriment en français. Les festivités culturelles sont nombreuses, soulignant à la fois leur héritage français et créole.
Plus au sud, en Amérique latine, savez-vous que le français est la 2e langue étrangère la plus étudiée? Son enseignement est obligatoire au Costa Rica, alors que c'est au Brésil qu'on retrouve le plus grand nombre de francophones.
Au-delà de l'éducation et de la culture, il y a des commerces, entrepreneurs, restaurateurs et industries qui offrent des services en français d'un bout à l'autre des Amériques. Mais la francophonie des Amériques a encore des défis à relever.
Partout, la demande pour apprendre le français dépasse l'heure.
On manque d'écoles francophones, d'écoles d'immersion et aussi de professeurs.
Ensemble, communiquons, vivons, travaillons pour faire rayonner cette francophonie des Amériques.
Nous sommes Québécois, Acadien,
Franco-Tico,
Guadeloupéens,
Franco-Ontariens,
Mexicains.
Nous sommes la francophonie.
Become a member of CIUT 89.5 FM before April 8th, and you will be entered into two special early bird draws for a VIP package for two people to the Fashion Arts Toronto Festival, or a $300 Steve's Music gift certificate. To donate, visit www.ciut.fm.
CIUT 89.5,
the new sound of your city.
Right here, right now, every day. CIUT 89.5, Toronto. The sound of your city.
Et oui, madame, monsieur, je viens de recevoir un texto. On m'a dit, tu triches, je n'ai pas dit que mon mot préféré était hilarant. Je parlais plutôt de l'extrait humoristique que tu as passé la semaine dernière. Enfin. Alors, voyez, il y a des gens qui nous écoutent, hein.
Ah oui,
oui, oui.
La preuve.
La preuve. Alors, je pense que nous avons un petit cadeau de, madame Anne Forrest Wilson. Merci beaucoup de écriture en mouvement. Regardez bien, vous allez me dire ça parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'on nous donne des cadeaux, on nous envoie des florilèges comme ça, de bouquets. Alors,
Bah, c'est un abécédaire de Lolipo, qui est publié chez Larousse, je suppose, qui est gracieusement offert à un auditeur de CIUT.
Bien sûr, de l'émission Bobouri, eh bien merci mille fois encore. Et Larousse est partenaire, fier partenaire de cette aventure de Via Rail dans le cadre du 400e anniversaire de présence à francophone en Ontario. Et avant de passer à une autre chanson piège, et ça c'est un francophone qui marche très très bien, nous allons continuer à jouer avec les mots, les proverbes. En amour comme à la guerre, tous les coups sont permis. La version anglaise, c'est
All blows, c'est quelque chose avec blows.
Je n'ai pas eu cette expérience, donc...
All is fair in love and war.
Oui, oui, c'est vrai.
C'est dur de tondre un œuf.
Oh là, jamais entendu en français. Ah non, moi non plus alors. Hein. Ça veut dire quoi?
It is very hard to shave an egg.
Ouais. Ah bon alors?
Cervelle inoccupée, le diable y trouve tente dressée.
C'est un proverbe québécois.
An empty brain is the devil's shop. Et chacun ses goûts.
C'est un proverbe
anglais. All taste. Ouais, ouais, ouais.
Voilà, voilà.
Et chacun ses goûts.
All taste, c'est quelque chose comme ça.
To each his own.
Ah, ouais. Voilà. Ah oui, c'est vrai.
Et charbonnier et maître chez lui.
Oula. Eric, vous nous avez sorti le dictionnaire, vous avez traduit.
Alors, un autre plus facile. Charité bien ordonnée commence
charité
par soi-même.
Charité begins at home.
Ah, oh, ben, et chat échaudé craint l'eau froide.
Moi aussi.
Surtout par les températures qu'on a.
Oui.
Once bitten, twice shy. Yeah, c'est joli ça, je trouve.
Oui, oui, c'est vrai.
Formidable. C'est vrai. Je sais que vous, à la maison, madame, monsieur, vous jouez avec nous. Appelez-nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est appelé, là? Non? Oui, alors donnez-moi le message, passez-moi le message et peut-être passez cette personne en onde. Et dernièrement, vouloir, c'est pouvoir.
One day is a will, there is a way.
Oh yeah, one day is a way, there is a will.
Voilà.
Alors, alors on va passer un message. Voilà, le téléphone, le numéro, je vous rappelle, c'est le 86 9 86 7000. Alors, qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à comprendre, à lire. Oui, oui, on va, oui. Alors, on va appeler cette personne. La personne veut passer en onde? Oui. Alors, donc, oui. Mais en attendant, vous allez écouter cette chanson. Et ça, c'est un monsieur qui marche très, très bien. Il était à Toronto. Et comme vous m'avez dit que nous n'avons pas le nombre, nous sommes un peu perdus. C'est pour cette raison qu'on n'arrive pas à rassembler des gens autour de nos activités. Eh ben, c'est pas toujours vrai parce que lui, il a attiré dans une soirée près de 2000 personnes.
C'est Stromae.
Mais ouais.
Stromae.
Eh oui, êtes-vous sûr?
Non.
Mesdames et messieurs, je vois que le beat s'y prête et pendant quelques minutes on va s'ouvrir la tête, quitte à ce que beaucoup y restent et que certains se blessent. Donc frappez dans vos mains, même en restant perplexe. C'est la mixture électro, électro. Vous comprendrez que cette info ne semble pas assez électro. Donc on accélère, et 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 on accélère.
Et oui, le nom de ce chanteur. Mesdames et messieurs, vous pouvez nous appeler au 86 9 86 7000, mais je pense qu'on a trouvé déjà la réponse en studio. C'est
Stromae.
Stromae. Alors, comment expliquer justement le succès de Stromae?
Il est très bon.
Ouais.
Mais non, il y a aussi le marketing. Voilà.
Ouais.
Il a assez de moyens pour vendre des disques. Enfin, non, les disques, c'est au 19e siècle, pardon. Non. Non, des CD. Je veux dire, le marketing est très puissant, en fait, c'est ça. Oui.
Moi, ma question, ma grande question, c'est qu'il chante en français, 99% en français, et quand il va à Los Angeles, à Miami, à New York, Montréal, ça c'est compréhensible, bien sûr, il y a un public qui est là. Mais comment expliquer que des anglophones, des Américains qui ne parlent pas, enfin on pense qu'ils ne parlent pas, ils ne comprennent pas nécessairement le français, comment se fait-il qu'ils sont attirés par ce type?
La musique est un langage international. Oui. Regardez l'exemple que vous nous avez donné.
Oui, ça résonne.
C'est un air que les anglophones connaissent déjà. Mmh. Donc, il y a en fait une combinaison.
Absolument.
Oui, du langage international et d'un contenu.
C'est une rencontre. Mais à l'inverse. Il a ménagé la chèvre et le chou.
Oui. Nous allons passer peut-être à un dernier invité ou une dernière invitée, madame, monsieur, dans le cadre des célébrations et la clôture du mois de la francophonie, édition 2015. Merci beaucoup, Daniel, d'être là. Ensemble, nous avons jonglé avec les mots, les expressions, que ce soit du Sénégal ou du Mali, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Québec, de la Suisse, de plusieurs pays européens d'ailleurs. C'était formidable, de la Belgique. Incroyable comment il y a des mots. Et puis, il y a le vieux français aussi qu'on parle encore, par exemple, à la Louisiane, à l'île Maurice, à l'île de la Réunion. On oublie ces petites îles, souvent dans l'océan Indien, parce qu'ils sont très, très éloignés, 15 000 milles en tout cas, entre ici et la Réunion. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'à travers la radio, à travers nos correspondants, à qui nous remercions chaleureusement, nous pouvons vous faire voyager dans les expressions et le monde de la francophonie. Et je pense que nous avons quelqu'un qui fait de... Non, qui n'est pas ici. Elle n'est pas au téléphone. Ah bon, très bien. Alors, vous avez quelques activités, Daniel, pour nous?
Non, pas franchement, à part Ciné Franco, puisque je suis une inconditionnelle de Ciné Franco, donc je ne pourrais faire que la publicité pour Ciné Franco, et aussi peut-être réitérer le programme de Béatrice et Bénédicte qui va avoir lieu le 23, 24 et 25. Je vous rappelle que c'est un opéra mis en scène par de jeunes chanteurs, musiciens de l'Université de Toronto. Et j'espère que dans une des prochaines émissions, nous pourrons avoir la représentante de cette troupe des jeunes auteurs musiciens de l'opéra.
Merci. On fait une petite pause musicale, on vous revient juste après.
Bien sûr, j'ai d'autres certitudes, j'ai d'autres habitudes.
D'autres que toi sont venus, des lèvres tendres, les mains nues, bien sûr.
Bien sûr, j'ai murmuré leur nom, j'ai caressé leur front, et j'ai partagé leurs frissons. Mais d'aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai plus oublié.
Le nom de ces chanteurs, madame, monsieur.
Isabelle Boulay.
Avec
Serge Lama.
Ah, vous êtes forte, hein.
J'adore Isabelle Boulay, alors, c'était pas difficile.
Là. Vous êtes.
Non,
vous...
pas du tout.
Non, pas du tout.
Voilà. Non, j'adore Isabelle Boulay, ça c'est.
Il n'y a pas eu d'arrangement avec le gars des vues, comme on dit.
C'est sûr. Okay,
le gars des vues.
Bien sûr, pour trouver le repos, j'ai caressé leur peau. Elles m'ont même trouvé beau, je raconte. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, et je te le jure, je n'ai plus oublié ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, je n'ai pu fermer ma blessure.
Je t'aime encore.
Bien sûr, j'ai joué de mes armes.
J'ai joué de leur là.
Très belle chanson, madame, monsieur. Alors, vous avez encore quelques minutes pour faire partie de la fête, madame, monsieur. Nous sommes en compagnie de trois grandes expertes de la culture francophone à Toronto. Je suis vraiment très choyé parce que nous avons le professeur Issa Sayel qui a écrit quand même des documents assez intéressants et importants dans le cadre de ses échanges avec la francophonie d'Amérique. Justement, vous étiez à un moment donné en Guadeloupe ou en Martinique,
En
Martinique.
Oui.
Alors, ça se passe bien, la francophonie en Martinique.
Oui,
oui.
Ça va. Ça
avec
va,
les fleurs.
Oui.
Ouais, la canne à sucre.
J'aimerais bien y être, alors, en ce
moment. Oui, alors, j'ai oublié de vous apporter le thé à la vanille que ma sœur m'a envoyé. Voilà.
Voilà, c'est parole et parole.
Voilà. Vous avez le thé de la vanille.
Non,
on retrouve le thé de la vanille à l'île Maurice. Oh, et oui, ma sœur Turin nous a entendu l'autre jour à la radio et a dit, ben, on va envoyer un petit cadeau au professeur Issa Sayek. Parce que vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller à l'île Maurice.
Non,
mais l'île Maurice
suis...
vient à vous.
Oui, mais attendez, à partir du 1er juillet, je serai en congé de recherche. Donc, j'irai certainement à l'île Maurice.
Vous avez dit congé de recherche.
Recherche, oui.
Vous recherchez quoi?
Vous voulez savoir?
Le dodo.
Le thé à la vanille.
Ah oui. Et le dodo alors?
Le dodo, il a fait dodo pour toujours. Oui.
Alors, on n'a pas le dernier mot, hein?
Non, non. Oui. Avec des professeurs, alors, c'est difficile.
Vous savez, il y a un organisme qui existe depuis quelque temps à Toronto que je trouve qui fait un travail formidable, Marcel. C'est la Société d'Histoire de Toronto.
Oui, absolument.
Et ils organisent des aventures en aventures dans la ville de Toronto.
De train en train, de port en port.
Voilà, voilà.
Et justement, il y a History Tours. Oui. History Tour.
Oui, oui.
Alors, si vous allez sur le site de la Société d'Histoire de Toronto, c'est très facile. D'ailleurs, on vous invite à devenir membre. Et je trouve ça formidable de découvrir la petite histoire de la ville de Toronto en français.
Ah oui? Oui, c'est pas seulement ça, c'est que les gens ne croient pas qu'il y a une histoire.
Ouais.
Hein. On arrive à Toronto en général et on se dit c'est une ville moderne. Ouais. Mais en fait, elle s'est bâtie sur des bases et sur des bases historiques, encore une fois franco-anglaises, et on les découvre merveilleusement avec la Société de l'Histoire.
Et on
c'est
m'a dit
Daniel
juste...
Callos.
Oui,
c'est Daniel Callos. Ouais. Oui.
Alors on m'a dit aussi Anne Forrest Wilson, qu'il y a un bateau qui a été affrété, je ne sais pas par quelle compagnie, qui va transporter Champlain sur le lac de l'Ontario. Oui, cet été, dans le cadre des festivités de la Pride Toronto, Toronto Pride. Alors, fierté, franco-fierté sera là. Et donc, je vous invite, madame, monsieur, à être nombreux, nombreux, s'il vous plaît, pour accueillir en grande pompe.
Et en costume.
Et chapeau de plume ou de paille.
Et tambour battant.
Oui, justement, Samuel de Champlain sera des nôtres
cet été,
madame, monsieur.
Il est quand même
jamais
venu à Toronto, donc
oui,
ça sera une grande première.
Exactement.
C'est tout ça.
Une autre chanson. T'aimes, madame.
Et mon mot préféré, c'est patate.
Pourquoi patate?
J'aime la prononciation, je trouve que ça se dit bien, patate.
Là, c'est les expressions de la francophonie.
Mon mot préféré dans la francophonie, c'est le mot poulamont à cause de sa sonorité amusante et de son unicité québécoise.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est le nom d'un poisson pêché à Sainte-Anne-de-la-Pérade sous la glace dans une période donnée de l'année. C'est un petit poisson qu'on retrouve nulle part ailleurs.
Quel est votre mot préféré?
Amour.
Ah, je vois Kéten un peu. Amour.
Ah, Kéten, amour.
L'amour.
J'ai pas de mots préférés, mais par contre, j'ai des mots en français qui ont complètement changé ma vision de voir la construction de la langue. Par exemple, le mot sadisme. Je savais pas, quand j'étais jeune, je savais pas que ce mot-là venait de Sade, du marquis de Sade. En fait, de savoir ça, ça fait qu'on peut faire toutes sortes de choses avec la langue, qu'on peut construire des mots de toutes sortes de façons.
Et mon mot préféré est Repentigny.
Quoi?
Je trouve que c'est une idée délicieuse.
Moi, c'est dada, parce que dire dada, c'est mon dada.
Spontanément. Voilà, ça y est. Ben c'est ça mon mot préféré. J'aime bien parce que c'est très énergique. Folie. Je sais pas pourquoi.
La peur de la fuge.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un préfixe qui est inter, qui voudrait dire entre, fuge, qui est le verbe fuir, en fait, qui est un suffixe. Donc,
incroyable, hein? C'est beau.
Oui, c'est très bien.
Vincent Vallière, très canadien, très franco-ontarien sur CUT 89,5 FM. Bon voyage.
Hey Lily, je vois bien que tu vis des heures folles. T'es là perdu sans boussole. Je suis bien inquiet pour toi. Tu sais, Lily, quand la vie te trahit, qu'une histoire te brosse et que ton cœur se casse, c'est correct de pleurer. Mais n'oublie pas que t'as toujours en banque quelques jours de chance et un peu d'espérance. C'est juste une passe. Faut pas perdre patience. Je te jure, fais-moi confiance. On va s'en sortir ensemble. C'est vrai, tout finit par s'user. Nos habits, nos maisons, nos amours, la gloire des premiers jours. C'est vrai aussi, y a des coups qu'on voit pas venir, qui nous font douter de l'avenir, qui nous donnent juste envie de fuir.
Les 24 heures du roman, une aventure littéraire et ferroviaire, présentée par Écriture en Mouvement dans le cadre des célébrations du 400e anniversaire de la présence francophone en Ontario. Écriture en aventure avec 24 écrivains dans un train de vie à rail. Ensemble, ils écriront, certains diront que c'est en lisant qu'on devient liseur. De Halifax, Montréal et Toronto, le 400e en Ontario, un parcours de mots. Les 24 heures du roman, un voyage hors du temps. Le 23 octobre 2015, 24 écrivains, incluant des franco-ontariens, acadiens, québécois et amérindiens, ensemble, ils vont explorer l'histoire tout en découvrant une histoire à plusieurs voix. Tout au long de 2015, sur les traces de Samuel de Champlain en Ontario. Les 24 heures du roman, une expérience à la croisée de plusieurs cultures. L'écriture en mouvement, un concept inédit. Les 24 heures du roman, en partenariat avec l'Association des auteurs de l'Ontario français, VRI, le Consulat général de France à Toronto, au Pourrichaud CIT 89,5 FM. Les voyages en train chez VRI offrent une occasion unique de découvrir l'histoire, la nature et la culture et de se reconnaître mutuellement. N'attendez plus, inscrivez-vous, participez à nos jeux concours. Et qui sait, vous courez la chance d'être à la fête. Pour tout savoir, pot.pourri@sympatico.ca. Bonne chance et bon voyage. Émission spéciale dans le cadre du mois de la francophonie. Dernière émission, émission de clôture. Et nous avons justement reçu plusieurs activités, Daniel, dans le cadre des festivités de 400e anniversaire en Ontario. Le calendrier des activités est sur le site de Mon Ontario ou Mon Assemblée, www.ontario400.ca. Et là, vous allez tout y découvrir. Entre autres, il y a l'écho de Champlain en Huronie. Le musée vivant de Fontaine présente l'écho de Champlain en Huronie. Je trouve ça formidable. Et l'écho de Champlain
en Huronie,
en Huronie avec 200 comédiens, danseurs et chanteurs provenant des écoles de la communauté. Cette production multimédia fait revivre 4 siècles d'histoire franco-ontarienne. C'est tout un spectacle. Il y a un grand concert sacré à la paroisse Saint-François d'Assise dans la région du Québec. La passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach avec le chœur classique. classique de l'Outaouais et l'ensemble Co de Montréal sous la direction de Tiffaine Legrand. Voilà, il y a plein d'activités. Vous allez voir que le calendrier, le site web va être fourni de, d'événements de ce genre. Alors, dernière table ronde, si vous voulez, tour de table. Tour de table, c'est ça qu'on dit. Vous savez, quand on dit tirer un bûcher ou tirer une bûche. Vous avez entendu cette expression ?
Non, pas personnellement.
Non ?
Non.
Daniel ? Au Québec, on dit prendre une chaise.
Ah.
Tirez-vous une bûche.
D'accord.
Prenez.
Je la mets
chaise.
Sur mon dos.
Ah oui.
Ça veut
dire quoi,
alors ? Ça veut dire quoi ?
Tour de table, tour de table pour nous rappeler un peu les événements. Ouais. Encore une fois, Ciné Franco, le rendez-vous, les dates et le site web aussi. Les gens peuvent s'abonner. Et acheter les billets en ligne, n'est-ce pas ?
Absolument, oui. Alors, les dates du 10 avril au 19 avril, le site web, c'est cinéfranco.com. Vous pouvez obtenir les billets à travers le site qui va vous amener au site de Hot Dogs. Mmh. Voilà.
Et le 24 heures du roman, qu'est-ce qui s'en vient ?
Prochaine activité publique, ça sera à Ottawa. Et la prochaine activité publique à Toronto, ça va être la Francofête.
Oui.
15 jours de présence.
Parfait. Et merci infiniment à Anne Forrest Wilson. Madame Marceline, merci beaucoup et bonne chance. Je vais voir ce bébé grandir. À l'âge de l'adolescente, il faut aller fêter ça, prendre un peu de champagne, comme vous dites si bien dans votre présentation, n'est-ce pas ? Et j'espère que les gens seront nombreux. Et d'ailleurs, les auditeurs de Potpourri sont invités à appeler. Et qui sait, il y a des billets là qui existent que vous nous avez donnés. Merci beaucoup. Et puis, Pascal Michelucci, merci beaucoup d'avoir été là. Je pense, encore une fois, à tout ce que vous avez fait, ainsi que Daniel Issa-Sayeg, un grand merci. Je sais que là, vous allez vous reposer pour de bon, peut-être à la plage, avec un petit brunch, n'est-ce pas, au bord du lac de l'Ontario, n'est-ce pas ?
Oui, pourquoi pas ?
Oui, parce que nous aussi, nous avons notre petit beach ici à Toronto, n'est-ce pas ? Et puis, DJ Devera, merci beaucoup d'avoir été là. Alors, il nous a conduit à bon port, n'est-ce pas ? Comme l'ingénieur du son et de la technique. Et bien sûr, notre ami, maintenant bénévole et stagiaire, c'est Mathilde, en direct d'Avignon, qui est avec nous et qui étudie d'ailleurs à l'Université de Toronto, dans la région de Mississauga. Alors, merci et j'espère que Mathilde va nous accompagner chaque dimanche. Alors, de la part, un dernier mot, oui ? Peut-être ?
Non, merci à tout le monde et bon travail et bon courage pour ceux qui continuent leur combat dans leurs différentes activités.
Et tous ceux qui ont participé à l'émission pendant tout le mois de mars 2015, un grand merci. Et puis, ça fait plaisir de vous avoir autour de nous aujourd'hui. Maintenant, on est prêt pour faire la fête.
Oui.
Oui. On y va.
On y va.
Allez, salut.
Allez,
au revoir.
Allez,
tout le monde.
Comment ça va chez vous? Comment ça va chez toi? Comment ça va chez vous? Comment ça va chez toi?
Tu nous gagnes, on va dire, moi, quel est le dernier avant? J'ai dit, il y a pas de rôle, il y a tant de rôle, il y a ce mur, il y a tant de rôle, le fait n'a plus l'idée. Don't so mona dula fanta ni ula banda di deme deme ko furu du taza deba na furu kuma kuma deba nya vola muso kolo je ni dura deba na kula nya kini zulo bado kanzo ni wajuru la jema se jala kane so so sina tama se ndengoro kanzo kulo kana la bilikan fini kane so kulo jala la konta la fe kanzo so kana nyega kandi kiri kane so so biela nya bege nyeri kanzo so so na kiya kuna so mola so mesra mala so ntemo la so mesra mala ngasra ma jo wani ala mandi kanzo je ni kala nya ko ji kane so kulo bila ko dunda kunya jamulo la kanzo ne nguna ngada Majo wonolo baro kusa nilo ngiri ngolo bo bra me ga bra di la bra kolos ma ga ko ko majo ani ba majo dajina ta fo ke bra do bo ta ko majo kru chama wa kleni ko ran
Comment ça va chez vous?
Hey, want to know what fun gigs are happening around Toronto? Tune in to Mar on Music, Fridays, noon to 1 p.m. on CIUT. Hear about upcoming festivals, gigs, random music gossip, a ton of new music, and weird reissues you won't hear anywhere else. So join me, Mar, on Music every Friday, noon to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM. The CIUT 89.5 FM Spring Membership Drive is happening April the 8th to April the 14th. Become a member before April the 8th, and you will be entered into two special early bird draws for a VIP package for two people to the Fashion Arts Toronto Festival or a $300 Steve's Music Gift Certificate. To donate, go to www.ciut.fm.
Right here, right now, every day. CIUT 89.5, the sound of your city.
Before this movement can truly get underway, a great awakening is required. We've got to awaken from the colorblind slumber that we've been in for far too long to the realities of race in America. We've got to be willing to embrace those labeled criminals. Not necessarily all their behavior, but them, their humanness. For it has been the refusal and failure to recognize the dignity and humanity of all people that has been the sturdy foundation for every caste system that has ever existed in the United States or anywhere else in the world. It's our task, I firmly believe, to end not just mass incarceration, not just the war on drugs, but to end this history and cycle of birthing caste-like systems in America.
That's Michelle Alexander, and this is Alternative Radio. I'm David Barsamian. This edition of AR features Michelle Alexander on race and caste in the United States. A string of shootings of young African Americans has generated national and international attention. While these killings were nothing new, the proliferation of cell phone cameras and social media raised public awareness. Systemic questions are being asked. What is the role of racism? The numbers are depressingly familiar. The United States has the largest prison population in the world. Blacks are more likely to go to jail than to college. The Sentencing Project reports, once African Americans are arrested, they are more likely to be convicted, and once convicted, they are more likely to face stiff sentences. Outside the prison walls is an economy that cannot generate jobs paying decent wages. Affordable housing? What's that? Programs alleviating poverty are cut back, and simultaneously, the coercive functions of the state are beefed up. Local police are armed to the teeth with the latest weapons, while underfunded schools are crumbling. Our guest today is Michelle Alexander. She's a professor of law at Ohio State University, formerly the director of the ACLU's Racial Justice Project in Northern California. She served as a law clerk for U.S. Supreme Court Justice Harry A. Blackmun. She's the author of the bestseller, The New Jim Crow. She spoke in Columbus, Ohio. And now, Michelle Alexander.
Thank you. Thank you so much for having me here tonight. Thank you for the warm welcome. And it's wonderful to be surrounded by so many people of faith, people of conscience, people who are committed to justice, not just in theory, but in practice, in daily life. Given the uprisings in Ferguson and the news reported just this week that our nation's prison population is rising yet again,
There is no better, no more important time for us to be having this conversation than right here, right now. The school's mission, Ohio Dominican's mission, captures perfectly why we're here tonight. I'll read it. To contemplate the truth and to share with others the fruits of this contemplation. Over the years, I have found that too often in our rush to judgment or in our rush to speak or to take action or just do something about something, we skip the crucial, all-important step of asking the question, what is the truth? Not just the facts of who said what, who did what when, what came first, what happened later, not just the data or the statistics or how much this or that costs, not the debate about what the witnesses really saw or didn't see, were his arms raised high or not, did the officer wait 1 second or five before pulling the trigger. Now, I mean, what is the truth, the deeper truth? The truth that holds the power to transform, to awaken, to shake the foundations and allow something new and beautiful to burst forth. As we think about Ferguson, as we think about the steady rise of our nation's system of mass incarceration, let's pause and ask, what is the whole truth, the deep meaning here? And then if we begin to glimpse this truth, let's not just hold it in our minds and talk about it and play around with it like an intellectual jigsaw puzzle. If we are to make our lives useful, if we are to be worthy at all of this gift we call life, then I think we better get serious about sharing the fruits of the truth. And I would go so far to say that it's time that we be the truth. We are gathered here tonight to talk about race and justice in America. And I'm sorry to say the truth is painful, profoundly painful. So painful that it's tempting to turn away, change the subject, flip the channel, talk about something, anything else. It's a truth so big and so monstrous, with such radical implications for our personal lives, as well as the structure of our society as a whole, that the temptation may be overwhelming to deny the truth, to imagine it isn't really that bad, to imagine there isn't something that any one of us can really do and that everything is going to be just fine if we just hold on and wait for the news cycle to shift. And then eventually all those images of the tear gas and the riot gear and the looting and the young people with their arms raised screaming, don't shoot, don't shoot, will just fade away. If we wait long enough, surely this will all pass. But here's the truth about the truth. It never goes away. It always comes back, resurfacing in new forms, masquerading in different guises. But it always shows up again, daring us to face it. So will we face it? Will we face the truth, speak the truth this time in this age? Here's another truth about the truth. In every time and age, there are those who deny the truth and those who courageously confront it and do their best to rise to the challenge that moment in history presents. I remember when I was a kid in school and I was so ashamed and demoralized whenever the teacher talked about slavery or Jim Crow. The textbooks would show pictures of black people chained in the bottom of slave ships or being whipped or hung from trees. And I saw the whites only signs and read about the fact that people like me were forced to sit at the back of the bus. My teacher said they wanted us to see these pictures so that we could learn about the truth. We needed to read this so we could learn the truth about slavery and segregation and the horror of it all. But my teachers, as well-intentioned as so many of them were, did not teach the whole truth. They taught about the pain and the suffering and the cruelty, the dehumanization, but they didn't say much about the courage, the resistance, the love that endured,
the songs that were born in the cotton fields, and the magnificent movements that were led by people who could barely read, could not even vote, people who were thought to be less than human. As Dr. Vincent Harding has eloquently written, a river runs through it, a river of courage and love and rebellion and creative action, a beautiful river runs through it all. And that's the truth, too, the whole truth. So I think the question for us as we gather here tonight is whether we are willing to face the truth of our times and join that beautiful river, that raucous, sometimes dangerous river, or not. Are we willing to join that river and widen that river so it eventually engulfs us all, carrying us to a place where we all belong, or not? Now, I know that some of us may not be ready to dive in right now, and that's fine. I myself played around for a long time on the riverbank. But here's my question. Are your toes even touching the water? Really? And if they are you willing to take a few more steps in? If you're standing back with your arms crossed, my question is this. Are you going to live your whole life on the shore, insisting you already know how to swim? I seriously doubt that I have the courage of Ella Baker or Bob Moses or Martin Luther King Jr. I wish I did, but I doubt it. But when I ask myself if I can take one more step into the river, I find the answer is almost always yes. One more step. And that's what I'm asking all of us tonight. Together, let's take one more step into the river of truth, of love, of courage, of justice, the river that has run through it all. And I'd like to dedicate this talk tonight to a young black man named Robert Peace, a young man who was killed in his prime. There are many, many, many young men I could name as well, names which may be more familiar to you. Trayvon Martin, who was stalked and killed by a so-called neighborhood watchman after he was viewed as suspicious for walking while black and carrying Skittles. And there is Michael Brown, the unarmed teenager in Ferguson, who was just shot to death by a police officer while his arms were raised, killed for the horrendous crime of jaywalking in the street. Just in the past several weeks, there have been numerous other instances of unarmed black men killed by the police, names you may or may not know. There's Eric Garner, a 43-year-old asthmatic father of six who was confronted by New York City police officers for allegedly selling untaxed cigarettes. The officers placed him in a chokehold, a tactic banned for decades, and on the video he can be seen gasping, "I can't breathe," while he's being smothered to death. And there's John Crawford of Beaver Creek, Ohio, just down the road, who was shot on site by police officers because he was carrying a BB gun in Walmart, a store that sells BB guns. And Ezell Ford in Los Angeles was killed by the police on August 11th. He was stopped by police on the sidewalk for no clear reason. A routine stop and frisk. The police say the young man suddenly tried to tackle him and reach for his gun, but his mother tells another story. She says her son complied, was forced to the ground, and when mouthing off, was shot in the back. And then there's Dante Parker, just weeks ago, who was arrested because he looked like he was suspicious while riding a bike. He had no criminal record, no violent history, but was suspected of stealing a bike. When he became angry that he was being arrested for riding his bike, he was tased repeatedly and died. The list could go on and on. Isabel Wilkerson, the author of The Warmth of Other Suns, recently published an excellent essay in The Guardian pointing out the parallels between police violence today and lynchings of an era supposedly long gone. She writes, "Not terribly long ago, in a country that many people misremember, if they knew it at all, a black person was killed in public every 4 days for often the most mundane of infractions, for the taking of a hog, making boastful remarks, for stealing 75 cents. For the most banal of missteps, the penalty could be an hours-long spectacle of torture and lynching. No trial, no jury, no judge, no appeal. Now, well into a new century, as a family in Ferguson, Missouri, buries yet another American teenager killed at the hands of authorities, the rate of police killings of black Americans is nearly the same as the rate of lynchings in the early decades of the 20th century. Let me repeat that. Today, in 2014, in the age of Obama, the rate of police killings of black Americans is nearly the same as the rate of lynchings in the Jim Crow era. About twice a week, or every 3 or 4 days, an African American is killed by a white police officer. Now, this figure excludes, of course, Trayvon Martin, who was killed by a self-appointed neighborhood watchman, and Jordan Davis, who was killed by a white man for playing his music too loud. Those types of killings are not included in the statistics because these young men were not killed by the police. They were killed by vigilantes. Isabel Wilkerson acknowledges that there are many differences between the violence of the past and what happens today, but she is quite right that there are important parallels that should not be ignored. Images and stereotypes and belief systems built into American culture since the days of slavery have persisted to this day, mutating and changing form over time. As she puts it so plainly, last century's beast and savage have become this century's gangbanger and thug, embedding a pre-written script for subconscious bias that primes many to accept what they were programmed to believe about black Americans, whether they were aware of it or not. Last century's beast and savage has become this century's gangbanger and thug. Which brings me to Robert Peace and the man who killed him. Someone who would likely be described in the media as a gangbanger and thug. I want to dedicate this speech, this time that I'm sharing with you, to both of them. Yes, the men for whom I want to dedicate this talk tonight were not innocent. They were not killed by white police officers. One young black man was shot dead by another young black man over a drug deal gone bad. I know their names because a book has been written about one of them. It is entitled The Short and Tragic Life of Robert Peace. The book explores the question of why a brilliant young black man who worked so tirelessly as a teen, overcoming incredible odds to get out of the hood, out of crushing poverty and off to Yale, and who excelled once he was there academically and socially, why would he forfeit all of the opportunity that was now waiting for him, the shining path that lay ahead, beckoning him? Why would Robert Peace toss it all away so he could return to his hood, deal drugs with his old friends, and try to make it on a path that seemed so obviously doomed? Why did Robert Peace go back? Why was he so unwilling to go on to great success and leave his family and friends behind? Well, I can't answer that question, and I encourage you to read the book for yourself. And I don't know the young man who took Robert's life, but I know that both of their lives mattered. They mattered even though they were criminals. They mattered even though one sold marijuana. It mattered even though one murdered another. They could be described in the media as gangbangers or thugs. But that doesn't mean their lives mattered any less. We are all criminals. We are all sinners. We are all seriously flawed. The fact that we believe that some lives matter more, that some people are worth caring about and others not, that some communities ought to be saved while others can be raised, the idea that some people, some humans are disposable, can be locked up and throw away the key. The idea that you can tell who those people are just by looking at them. Those false beliefs helped to birth and sustain slavery. Those false beliefs birthed and sustained Jim Crow. And those false beliefs have birthed yet another massive system of racial and social control, a system of extraordinary cruelty, a system that one day we as a nation, I pray, will be ashamed of, much the way we are ashamed of slavery and Jim Crow. We may say now that we're colorblind and that those days of caste and oppression are long gone, but the truth, the whole truth, is there for us to see if we are willing to face it. So in memory of Robert Peace and his killer, both of whom are children of God, I hope we can commit ourselves to honoring the dignity and humanity of both of those men, as well as the millions of those who are behind bars, to each and every one of us, no matter who we are, what color our skin, where we came from, or what we may or may not have done. Now, I've been doing a lot of traveling in recent months, meeting with advocates around the country and engaging with communities who've had enough, who are eager to wake up and face the truth and take a stand. I've been meeting with some extraordinary people who've been moved by their own faith, their own conscience, their own conviction, and finding their voice and doing the hard work of organizing for justice in their communities. People like Susan Burton. I met Susan a couple of years ago, and she's what I call a stone catcher. So many people in our culture today are eager to throw stones. In the Bible, of course, there's the story of the woman who committed adultery, and a group of men gathered around her, prepared to stone her to death for her sin, for her crime. And what did Jesus say? He said, "Let he who is without sin be the one to cast the first stone." And as each man considered his own sins, the stones began to drop to the ground. Well, today we are a society that loves to throw stones. And Susan, well, she has not just dropped her own stone, she has run into the fray to catch the stones aimed at others. Today, it's not enough to drop your own stone, to say, "I'm not going to constantly live in judgment of others." We must be willing to step out and catch the stones that are raining down on the most vulnerable, and we must be willing to stand up to the stone throwers and disarm them. And Susan Burton is doing precisely that. She knows what it feels like to be hit by stones. She herself cycled in and out of prison for more than 15 years due to a drug addiction. She succumbed to addiction after the Los Angeles Police Department ran over her 5-year-old son in the street. Police cruiser zooming down her street, ran over the boy and killed him. The LAPD offered no apology, no compensation, and Susan fell into a deep, deep grief. Now, if Susan had not been impoverished, if she had been middle or upper middle class, if she had a very good health care plan, no doubt she would have qualified for hundreds of hours of therapy and good legal drugs to help her cope with her severe depression and grief. But things were different for Susan. She became addicted to crack cocaine. And thus began her odyssey, cycling in and out of prison for 15 years, never offered drug treatment, only a prison cell. And every time she was released, she was pushed back out onto the street homeless, unable to find work or shelter, and still consumed by depression and addiction, she found herself back in prison again, accepting one plea deal after another. "Just take the plea. You'll get 3 years rather than 7. Just take the plea. You'll get 6 years rather than 9. Just take the plea." Then finally, by the grace of God, she got access to a private drug treatment facility that not only helped her become clean, but also helped her get a job. And once she had a roof over her own head, she decided to dedicate the rest of her life to ensuring that no other woman would ever have to go through what she had been through. And she started by going down to Skid Row in Los Angeles and meeting the prison bus as it was releasing women onto the street. Women being released onto the street carrying nothing but a cardboard box with their belongings and $20 in their pocket. She would go down and meet these women coming off the prison bus, and she would say, "You know what? Just come home with me. Come home with me. You can sleep on my couch. You can sleep on my floor. Just come home with me. You don't have to turn to the streets tonight." Susan now runs 5 safe homes for formerly incarcerated women in Los Angeles. She's wading way into the river, providing shelter, help finding employment for people. She is there for women who are facing the permanent termination of their parental rights with their children. As employers close the doors on women's faces, she does her best to catch the stones. As social workers tell women released from prison, no, you may never, ever get your children back, she steps in to catch the stone and says, no, we're taking you to court. But above all, Susan is committed to organizing formerly incarcerated people throughout California to confront the stone throwers. They're marching to the doorsteps of those stone throwers, demanding drug treatment rather than prison time. They're organizing for the restoration of basic civil and human rights, including the right to vote, the right to serve on juries, the right to be free of legal discrimination in employment, housing, access to education, and public benefits. She is training the least of these, the prisoners, those who have been shamed and scorned. She is training them to be leaders, true leaders in the movement for justice. Her determination and her spirit can be seen in the faces of young people marching for justice in the streets of Ferguson. Young people facing tear gas, allowing themselves to be arrested and join the millions of other Americans who have spent time behind bars. Cornel West once said, "Justice is what love looks like in public." And when I see Susan walking through the home she created for women returning from home from prison, and when I see young people organizing and defiantly insisting on being arrested rather than putting down their signs or ending their march, I see love, love in action, love in public, a willingness to face the whole truth. I have to admit, though, that it took me a long while to see the whole truth. It can take a long while to see the whole truth. For a long while, I was working as a civil rights lawyer and advocate. I had gone to an excellent law school. I was coming out imagining that I was going to work and fight for justice. But I had bought in to something far less than the truth. I had bought into the idea that we as America were on a grand upward march, and it was my job as a civil rights lawyer to help get us the rest of the way there. I had bought into the idea that the reason so many young black men were cycling in and out of prison could simply be explained by poverty, bad schools, broken homes. Never did it occur to me back then that something like a new caste system had emerged within my lifetime. It was hard to believe, having been raised on the idea that we were overcoming. Progress was on the march. But after years of representing victims of racial profiling and police brutality, and investigating patterns of drug law enforcement for communities of color, and attempting to assist people who had been released from prison as they faced one legal barrier after another to mere survival, getting a job, a home, basic public benefits, and food, I began to have my awakening. I began to awaken to the reality that our criminal justice system functions much more like a system of racial and social control than a system of crime prevention and control. And I began to see what should have been obvious, what was hidden in plain sight. As I describe in the introduction to my book, what has changed since the collapse of Jim Crow has less to do with the basic structure of our society than the language we use to justify it. In the era of color blindness, it is no longer socially permissible to use race explicitly as a justification for discrimination, exclusion, and social contempt. So we don't. Rather than rely on race, we use our criminal justice system to label people of color criminals and then engage in all the practices that we supposedly left behind. Today, it is perfectly legal to discriminate against criminals in nearly all the ways in which it was once legal to discriminate against African Americans. Once you're labeled a felon, the old forms of discrimination, employment discrimination, housing discrimination, denial of the right to vote, exclusion from jury service, are suddenly legal again. As a criminal, you have scarcely more rights and arguably less respect than a black man living in Alabama at the height of Jim Crow. We have not ended racial caste in America. We have merely redesigned it. Now, I've given a lot of thought to how I could have been lulled to sleep, someone who cared about racial and social justice. How so many of us could have been lulled to sleep, how many have become indifferent to the suffering of millions. And I think the reasons are numerous, but among the most important are those images of great racial progress, images that reinforce this sense that those who have been left behind, those who are stuck at the bottom, find themselves there for reasons that can be fairly described as their own fault. We hear a common narrative today, not only in the mainstream media, but in many black churches as well. If only black men would get it together and do right, pull up their pants, stay in school, get a job, do right by their kids, be a man, be a father, stay away from drugs, just act right, then none of this would be happening. This whole system of mass incarceration wouldn't even be a problem for black folks if they would just act right. We hear it in the media when a young black man is shot by the police. Well, if he hadn't mouthed off to the officer, none of this would have happened. We hear it, Jordan Davis is killed. Well, if he had turned his music down. There is this sense among so many of us, including so many black folks, that sadly, we've just brought all of this on ourselves. And this perception allows waves and waves of shame and punitiveness to wash over our community, waves that meet little resistance. Paradoxically, the election of Barack Obama, far from reflecting the genuine liberation of black people in the United States, actually rationalizes, in some respects, our collective indifference to those locked up and locked out. You flick on the television set and there you see President Barack Obama standing in the Rose Garden looking handsome, dignified, and in charge. Flip the channel again and there's Michelle Obama digging a garden in the backyard of the White House, not as a servant or a slave or a maid, but as the First Lady schooling the nation on good health and how to be good stewards of our planet. And then you flip the channel again and there's the whole Obama family descending the stairs of Air Force One. Black family living in the White House, ruling America, cheered around the world. Well, if a black man can be president of the United States today, what is wrong with you, brother? In handcuffs, on your way to jail. Obama can make it. What's wrong with you? What's wrong with you, Jordan Davis? Why can't you just turn your music down?
You're listening to Michelle Alexander, Race and Caste in the United States. This is Alternative Radio. You can order copies of this program by calling 1-800-444-1977. That's 1-800-444-1977. Or you can order online on our website, alternativeradio.org. That's alternativeradio.org.
Not long ago, I was in Chicago, Obama's hometown, a place where most black boys have a far better chance of being shot dead in the streets before they're 21 than ever being elected to public office, much less president of the United States. It's a place where 80% of working-age African-American men now have criminal records and are subject to legal discrimination for the rest of their lives. Men who are part of a growing undercaste, not class, caste, a group of people defined largely by race, relegated to a permanent second-class status by law. And in this great city, President Obama's hometown, a vast racial undercaste has emerged just as it has in Ferguson, Detroit, here in Columbus it can be found, Cleveland, and countless cities throughout America. Occasionally we hear about the homicide rate in some of these places, in Chicago or New Orleans, violence that spins out of control, not everywhere, but in certain places, certain neighborhoods, certain communities defined by race and class. More than 100 young people were killed in Chicago last year alone. Hundreds more were killed, adults killed, scarcely any notice in the media. Just another black man gunned down, found dead in the street. Now, I'm grateful that some of our politicians are having a debate about gun control and the need to limit the amount of guns flowing in our streets, but I am disturbed, deeply disturbed that this national debate doesn't include any honest discussion of why, truly why, some of our communities now look like war zones while others do not. For while I support gun control, I think we've got to admit that the reason, the truth about why some communities are war zones and others are not, is not at bottom about the number of guns that can be found in any given community. I live in Gahanna, and I've come to learn that quite a number of my neighbors own guns. Quite a number of them do. But I feel safe. What makes a neighborhood safe is not the number of guns, but the number of good schools, good jobs, good opportunities for one's life. Those are the numbers that matter most when it comes to despair and violence. And in Obama's hometown, as in so many other cities and communities across America, a choice has been made. It is a deliberate choice, and it's a choice that has been made over and over again. Rather than good schools, we have built high-tech prisons. Rather than create jobs, we've embarked on an unprecedented race to incarcerate that has left millions of Americans permanently locked up and locked out. William Julius Wilson has written an excellent book entitled When Work Disappears. He cites statistics showing that when you control for joblessness, in other words, when you compare white jobless men to black jobless men, the racial disparity in violent crime disappears. Men of all races and ethnicities who are jobless, particularly who are chronically jobless, are more likely to be violent. Of course, joblessness is not an excuse for violence, and most people who are jobless are not. But we know, and we have known for many, many years, that when you create conditions of chronic joblessness, where there is poor education and widespread hopelessness, there will be violence. Now, what's happened in America is not simply that black folks suddenly decided to be violent. No. What's happened in America is that there has been a radical transformation of our economy and the political system as it relates to the management of the dispossessed. As late as 1970, more than 70% of all African Americans in the Chicago area held blue-collar factory jobs. 70% of black men working in the Chicago area as late as 1970 held blue-collar factory-type jobs. Almost overnight, those jobs vanished. By 1987, the industrial employment of black men had plummeted to 28%. Just 15 years. Hundreds of thousands of African Americans, primarily black men, found themselves jobless, trapped in racially segregated, jobless ghettos, struggling for survival. Factories closed down, moved overseas. Technological developments rendered hundreds of thousands of jobs unnecessary. Factories used to be located in urban communities near black neighborhoods so they could have easy access to cheap black labor. Almost overnight, those jobs vanished. Hundreds of thousands of black men suddenly stranded, jobless, locked in racially segregated ghettos, struggling for survival. Now, we could have responded to this extraordinary crisis, this literal economic collapse of urban black communities with a wave of care, compassion, and concern. Bailout packages could have sailed through Congress. Stimulus packages could have rolled through legislatures. Funding could have been poured into urban schools to ensure that the young people who live there would have some chance of making the rough transition from an industrial economy to a service-based economy, one where a high school education might not even be enough, where you might need a college degree. We could have responded with a wave of care, compassion, and concern, but no. Instead, we chose a different path, a path more familiar when it comes to matters of race. We chose the path of division, punitiveness, and despair. As a nation, we ended the war on poverty and declared the war on drugs. Black men found themselves suddenly unnecessary to the functioning of the U.S. economy, no longer needed to pick cotton in the fields or labor in factories. Black men found themselves suddenly disposable, no longer necessary, and were rounded up in droves. As I describe in some detail in my book, the collapse of inner city communities in the 1960s, and the 1970s, and into the 1980s occurred at precisely the same moment that a backlash against the civil rights movement was brewing, creating the perfect storm. I will not detail here all of the politics that gave rise to mass incarceration, but suffice it to say that politicians from both political parties, Democrats as much as Republicans, exploited our nation's racial divisions and anxieties for political gain. And more than a few black politicians joined the get tough bandwagon out of desperation to deal with real problems of crime and violence in their communities. For as we've seen over the years, when black folks ask for good schools, they don't get them. When they ask for jobs, won't get that either. The one thing that poor folks of color can ask for and get are police and prisons. And it seems we've gotten way, way more than we bargained for. Children in so many of our communities, like the one Robert Peace was raised in, are shuttled from segregated, impoverished neighborhoods and their decrepit, underfunded schools to brand new high-tech prisons. A new industry has been born, a prison industrial complex, an industry that has found a new way to profit from black bodies and to blame them once again for their own plight. And now we stand back and feign shock and horror as these communities that have been abandoned, where work has disappeared, where schools have been allowed to fail, and where a war, a literal war, has been declared, we stand back and wonder, why the violence? Why can't these people get it together? Why won't they pull their pants up? Why are they cycling in and out of jail? What's wrong with them? I say the deeper, more pressing question is, what is wrong with us? I find that when I tell people that mass incarceration amounts to a new Jim Crow, I'm frequently met with this shock, disbelief. People say, how can you say that? How can you say that? Just look at Barack Obama. Just look at Oprah Winfrey. There's no caste system in the United States. Our criminal justice system isn't a system of racial control. It's a system of crime control. And if black folks would just stop running around committing so many crimes, they wouldn't have to worry about being locked up and then stripped of their basic civil and human rights. But therein lies the greatest myth about mass incarceration. The greatest myth, the greatest lie that has helped to sustain this whole new system in the United States. Truth is, our prison population quintupled over a 30-year period of time for reasons that have stunningly little to do with crime or crime rates. Our prison population soared from about 300,000 in 1970 to now well over 2 million today. But in that 30-year period of time when our prison population more than quintupled, crime rates fluctuated, went up, went down, went back up again, went down, went up, and then went down, down, down. And as bad as crime rates are today in many parts of the country, nationally, crime rates are at historical lows. But incarceration rates have consistently soared. Most criminologists and sociologists today will acknowledge that crime rates and incarceration rates in the United States have moved independently of one another. Incarceration rates, especially black incarceration rates, have soared regardless of whether crime is going up or going down in any given community or the nation as a whole. So what explains the sudden explosion in incarceration rates, the birth of a penal system unprecedented in world history, if not really crime and crime rates? Well, the answer is the war on drugs, the war on crime, the get tough movement, a war, a literal war that was declared on poor communities of color. Many Americans reacted with shock when they saw police officers decked out in military gear with assault weapons, machine guns, military-grade equipment confronting nonviolent protesters. Where did all of that come from? That military equipment has been shipped to local police departments by the Pentagon since the early 1980s, since the war on drugs was first launched. And it has been used. SWAT teams have been used routinely in minor drug arrests, sweeping in to arrest young people for simply possessing a small amount of marijuana before they flush it down the toilet, battering down doors. A literal war has been declared in our communities. And it's difficult to overstate the impact of this war. Drug convictions alone accounted for about two-thirds of the rise in incarceration in the federal system and more than half of the increase in the state prison system between 1985 and 2000, the period of our prison system's most dramatic expansion. To get a sense of how large a contribution the drug war has made to mass incarceration, think of it this way. There are more people in prisons and jails today just for drug offenses than were incarcerated for all reasons in 1980. Now, most Americans violate drug laws in their lifetime. Most do. That's a fact. Some point in lifetime. But the enemy in this war has been racially defined. Not by accident, this drug war has been waged almost exclusively in poor communities of color. Even though studies have consistently shown now for decades, year after year, that contrary to popular belief, people of color are no more likely to use or sell illegal drugs than whites. In fact, much of the research suggests that white youth are more likely to use and sell illegal drugs than black youth. But that's not what you would guess by taking a peek inside our nation's prisons and jails, which have been overflowing with black and brown drug offenders. And this drug war has never, from the outset, been waged primarily on violent offenders or drug kingpins. No, the overwhelming majority of those swept into the system have been arrested for relatively minor, nonviolent drug offenses like simple possession of marijuana. The very same crimes that occur with roughly equal frequency in middle-class white neighborhoods and on college campuses and go largely ignored. But once swept in and branded a criminal felon, it's all over. For the rest of your life, you've got to check that box on employment applications asking, have you ever been convicted of a felony? Discrimination is now legal against you for the rest of your life. You've been branded. Discrimination in public housing, perfectly legal. Private landlords are free to discriminate against you. You may be denied basic public benefits, even food stamps, depending on the state you live in, for being convicted of a drug offense. You may be stripped of the right to vote and denied the right to serve on juries for the rest of your life. And if you try to challenge any of this in a court of law, you'll find that the doors are closed at every turn. The U.S. Supreme Court has consistently closed the courthouse doors to claims of racial bias in our criminal justice system. At every stage, from stops and searches to plea bargaining to sentencing, there is little hope now of escaping the system once you've been swept in, and it is one that will trap you for life. People often say to me, oh, you're making excuses for people. You're making excuses. You can't make excuses for you really want to get a job and get your life together when you get released from prison. You can do it. You can do it. You could get a job at McDonald's or something. I said, well, first of all, getting a job at McDonald's is no easy feat if you've been convicted of a felony. But even if you could, why should you be sentenced to a job at McDonald's for the rest of your life? Because of some mistake you made when you were 19. We have now successfully locked millions of poor people, overwhelmingly poor people of color, into a permanent second-class status. And many of them are angry. Many of them don't know how to manage their anger. And when you see images in Ferguson of young people looting, bursting into stores, what you see is hurt. What you see is anger. What you see is rage without a direction. That's not to excuse it, but we have to understand it. We have to understand the whole truth about what we see. Because we now have millions of young boys and girls growing up believing that someday they're going to jail if they don't die first. So what do we do? What do we do when we hear on the news that another young black man has been shot dead? What do we do when we see the uprisings in Ferguson and other communities around the nation? What do we do?
Well, first, I believe we have got to pause, reflect, and muster the courage to tell the truth, the whole truth. We've got to be willing to admit out loud what we as a nation have done, that we have managed to recreate a caste-like system in this country. We've got to be willing to tell this truth in our churches, in our schools. We've got to be willing to tell this truth in our families, in barber shops, so that a great awakening can occur. Because unlike the old Jim Crow, there are no signs alerting you to the existence of this new caste system. The whites-only signs are gone. If you are not personally affected by this system, if you yourself have never been labeled a felon or sent to prison, if you don't have a loved one serving time or trying to find a job once they got out, it's easy to go your whole life and have no idea what is really going on. Prisons are now out of sight, out of mind. If you're not affected, you don't have to know and you don't have to care. People go to the mall and they see black people and white people shopping together at Easton, going to movies. Everything looks okay. But there is another America, and another America that we have ignored and denied for too long. It's time we start telling the truth. And telling the truth means educating ourselves, organizing study circles, film festivals, film screenings, places where we can convene and talk, awaken ourselves and those around us, and commit to action. And we must commit to building an underground railroad for those released from prison. An underground railroad so that people have some shot at making a break for real freedom upon release. So they have some hope of getting food, shelter, a roof over their head, a job, open arms, some love. But of course, just building an underground railroad and shuttling a few to freedom one by one is not going to be enough. It never has. It wasn't enough to end slavery. It will not be enough to end this system of mass incarceration. During the days of slavery, you had to be willing to work for abolition. And today, I believe we have got to be willing to work for the abolition of the system of mass incarceration as a whole. And that means ending the war on drugs once and for all, ending it. We've spent more than $1 trillion waging this war, and rates of drug addiction and drug abuse remain largely unchanged. It's time that we treat drug addiction and drug abuse as a public health problem and give people access to drug treatment and support rather than showing them the inside of a prison cell. We need to demilitarize our police. We need to have public accountability for the agencies that intervene in our lives. We need to end all forms of legal discrimination against those who are released from prison, discrimination that denies them basic human rights to work, to shelter, to food. And as we begin to close our prisons, and as we begin to bring people back home, we have got to invest every single penny saved back into the communities that were most harmed by the war when it was waged. I'm talking about reparations for the war on drugs. We didn't get reparations for slavery. We didn't get it for Jim Crow. We need to start repairing the harm that's been done, to repair the harm that's been done. And last but not least, we have got to shift to a more rehabilitative and restorative approach to dealing with violence and violent crime in our communities, one that honors the victim, the community, and the offender as well. We've got a lot of work to do, and it may seem overwhelming. It may seem like it can't possibly all be done, but I hope we will keep in mind that all of these rules, laws, policies, and practices that comprise this system of mass incarceration all rest upon one core belief, and it is the same core belief that sustained Jim Crow. It's the belief that some of us, are not worthy of genuine care, compassion, or concern. And when you effectively challenge that core belief, this whole system begins to fall like dominoes. A multiracial, multi-ethnic human rights movement must be born, one that takes seriously the dignity and humanity of all people. Before this movement can truly get underway, a great awakening is required.
We've got to awaken from the colorblind slumber that we've been in for far too long to the realities of race in America. And we've got to be willing to embrace those labeled criminals. Not necessarily all their behavior, but them, their humanness. For it has been the refusal and failure to recognize the dignity and humanity of all people that has been the sturdy foundation for every caste system that has ever existed in the United States or anywhere else in the world. It's our task, I firmly believe, to end not just mass incarceration, not just the war on drugs, but to end this history and cycle of birthing caste-like systems in America. Thank you.
That was Michelle Alexander on race and caste in the United States. She spoke in Columbus, Ohio. Michelle Alexander is a professor of law at Ohio State University. She served as a law clerk for U.S. Supreme Court Justice Harry A. Blackmun, and she's the author of the bestseller, The New Jim Crow. This program is produced by Alternative Radio, an unembedded award-winning weekly series based in Boulder, Colorado. Since we began broadcasting in 1986, AR is independent. We feature progressive voices rarely heard elsewhere, such as Angela Davis, Deepa Kumar, Glenn Greenwald, Noam Chomsky, Chris Hedges, Arundhati Roy, Tariq Ali, and David Suzuki. To access our complete audio and book archive, just go to our website, alternativeradio.org. Again, our website where we are podcasting, alternativeradio.org. To place a credit card order for a CD, MP3, or written transcript of today's program, Michelle Alexander, Race and Caste in the United States, call us at 1-800-444-1977. Again, that number is 1-800-444-1977. Or you can order on our website, alternativeradio.org. That's alternativeradio.org. Evan Davis of WCRS Columbus recorded the program. Our theme music is Mai No Zippo, composed by Dumasani Maraire of Zimbabwe, and performed by the Kronos Quartet from their album Pieces of Africa. Gavin Dahl is AR station liaison. Joe Ritchie is our general manager and editor. I'm David Barsamyan. Thank you for listening.
Between 8 and 10 p.m. for the Master Plan Show, Generation Next, broadcasting live right here on CIUT 89.5 FM, 15,000 booming watts of hip-hop power, North America's longest and strongest running hip-hop radio show. Boom! Master Plan Show, Generation Next, with DTS, Lottie Dottie, throwing it down in your face.